Aujourd'hui dans The Game Makers, on va parler de la génération procédurale. À quoi sert la génération procédurale? Que peut-on générer procéduralement et comment? Génération procédurale ou génération texto, quel est le mieux? On y répond tout de suite. Bonjour et bienvenue dans The Game Makers, le podcast qui vous plonge dans l'océan de la création de jeux vidéo. Si vous nous écoutez depuis le début, vous commencez à être habitué, je suis Adrien, et je risque de vous parler de mon amour du 4X tout au long de cet épisode. Et comme chaque mois, je suis accompagné d'une équipe de choc, en commençant par celle qui pourrait presque renier Hollow Knight pour jouer à Binding of Isaac, Jade. Bonjour Jade.
Jamais. Bonjour.
Celui qui trépigne sur son banc et qui ne tient plus en place tellement il est fan des jeux Amplitude, c'est Antoine. Bonjour Antoine.
Salut, salut.
Celui qui a perdu un bon morceau de sa vie dans les mondes de Path of Exile, c'est Gugli. Bonjour Gugli.
Coucou.
Et pour nous accompagner dans cet épisode, ce n'est pas un, mais deux invités qui sont avec nous aujourd'hui. Sébastien Dubois et Arthur Prudent, qui ont travaillé sur la génération procédurale dans Dungeon of the Endless, respectivement en tant que lead developer et game designer. Bonjour à vous et merci d'être là.
Hello.
Bonjour.
Merci à vous cinq d'être présents aujourd'hui pour parler de ce vaste sujet qui est la génération procédurale. Avant de commencer, les actus du monde du jeu vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2018 et voici quelques actus que nous avons relevées.
Alors tout d'abord, une actu qui a été assez surprenante, ça a été la suppression de la plus grande majorité des effectifs de Telltale, c'est-à-dire le studio qui fait toute la licence des Walking Dead. Donc ça a été assez un choc, surtout que voilà, ils ne s'y attendaient pas. Et ça a surtout fait peur à beaucoup d'autres développeurs tout autour dans les studios de jeux.
Surtout que le développement du jeu n'était pas terminé en fait, ça a été vraiment du jour au lendemain, licenciement massif. Et du coup, la note un poil positive, c'est que Skybound Games veut finir le travail qui était en cours uniquement avec des développeurs qui ont travaillé sur The Walking Dead. Donc, ils essayent de récupérer un maximum de ces développeurs, à la fois, je pense, pour un côté un peu moral et à la fois aussi parce qu'ils ont l'expérience sur le projet et que ça doit coûter mine de rien moins cher de reprendre les mêmes développeurs.
Voilà. Et du coup, une autre actu qui est aussi un petit peu terrible, c'est une petite phrase qui vient de Rockstar, donc ceux qui ont fait le jeu de Red Dead Redemption 2. Ils se sont vantés que pour finir le jeu, ils ont fait plus de 100 heures. Et il y a eu un énorme...
Par semaine.
Oui, c'est ça qui est important. Et il y a eu un énorme backlash et aussi une mise en lumière, une fois de plus, du système de crunch, qui est en fait un système qui pousse les développeurs à rester jusqu'à pas d'heure pour finir un jeu.
C'est quelque part, c'est le crunch, on connaît, c'est pas nouveau. Là, le plus de 100 heures par semaine est quand même quelque chose d'assez énorme. Ça permet d'avoir quand même un débat sur le sujet. Enfin, aux États-Unis, il y a énormément de gens qui en parlent. Notamment, Rockstar a autorisé les développeurs à donner leur avis, enfin leur version des faits, et de donner exactement leurs heures, sans problème. Donc, il y avait vraiment un dialogue qui commence, une réflexion sur ce sujet. Donc oui, c'est triste, hein. Clairement, plus de 200 heures par semaine, c'est quelque chose d'assez grave. Ce qu'il en ressort sur les premiers témoignages, c'est que c'est pas tout le monde, c'est pas très longtemps, mais qu'il y avait quand même une politique de crunch et que c'est en amélioration actuellement.
Et puis je pense aussi que la personne qui a dit ça était super maladroite, c'est qu'elle s'est dit ouais, ça montre qu'on est super motivé, alors qu'en fait non, ça montre que c'est pas forcément géré comme il faut, quoi. Ouais.
C'est clairement l'inverse. Ces deux petits points d'actu me font penser que si vous travaillez dans le milieu du jeu vidéo et si vous non plus vous n'aimez pas le crunch, il existe le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, donc le STJV, qui fête ses un an je crois en ce moment, qui justement est la référence en France pour traiter ces sujets de conditions de travail dans les milieux du jeu vidéo.
Pour passer sur une note plus joyeuse et pour commencer ce dossier, je vous propose de parler de trois dates que j'ai retenues sur le sujet. Ça a été super compliqué parce qu'il y a énormément de jeux très marquants qui ont exploité la génération procédurale, donc on en reparlera de plusieurs. Mais j'ai choisi, comme on fait généralement, le premier jeu, en tout cas que j'ai trouvé, qui a utilisé la génération procédurale, qui s'appelle Binnis Apple Manor, qui est sorti en 78, soit 2 ans avant Rogue. Donc c'est le premier roguelite, mais avant Rogue. Et donc c'est un dungeon crawler roguelite en ASCII. Et le jeu consistait à aller chercher la Golden Apple au fond du donjon, et c'était donc un des donjons générés procéduralement.
Tu veux dire qu'on devrait appeler ça du Binnis Apple Manor-like, en fait?
Ouais, bof, ça aurait été moins bien quand même.
Restons sur roguelite, restons sur roguelite.
Ensuite, en fait, comme ça a été au début utilisé pas mal pour tout ce qui était... gestion de la mémoire, donc ça permettait d'avoir des trucs facilement sans utiliser trop de mémoire. C'est tombé un petit peu en déshabitude avec l'apparition du CD. Et donc j'ai choisi après comme jeu un jeu un peu plus récent qui est sorti en 2002 et qui s'appelle Dwarf Fortress. Je sais que c'est un jeu qui plaira beaucoup à Gugli. Donc un espèce de jeu de gestion roguelike en ASCII où on dirige une bande de nains dans un monde heroic fantasy complètement compliqué à comprendre avec plein de choses partout. Et je ne pouvais pas continuer ces trois dates sans parler de Minecraft. Minecraft qui est probablement le jeu qui a amené la génération procédurale au plus grand monde, au public, aux jeunes surtout. Donc il y a tout le monde qui joue à Minecraft, tous les âges, etc. Donc qui a montré un peu qu'on pouvait faire des mondes immenses, tout le temps rejouables, tout le temps différents, se balader dans des trucs avec pas grand-chose finalement.
Qui a montré aussi que les jeux bac à sable, ça pouvait fonctionner finalement. Qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir un vrai objectif au jeu pour que ça intéresse les gens.
Et ça, c'était en 2011. Parce que t'as pas dit la date.
Ah, j'ai pas dit, pardon. Ouais, 2011, Minecraft. Et qui est le jeu le plus vendu, pratiquement, enfin, égalité avec Tetris, etc. Mais le plus gros jeu de tous les temps.
Et c'est vrai que c'est probablement le plus gros hit de génération procédurale en tout public.
Oui, je crois que c'est encore un des jeux les plus joués au monde. Mais même ça rivalise avec Fortnite, sauf que c'est moins médiatisé, quoi. C'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on fait ces histoires en trois dates, c'est toujours le matériel qui drive les évolutions. Et en fait, là, c'était le matériel qui drivait les évolutions, puis finalement, plus du tout. Enfin, le matériel.
C'est ça. En fait, ouais, au début, ça a drivé l'envie d'utiliser la génération procédurale, puis après, il n'y avait plus besoin. Donc, plus personne ne l'utilisait, ou très peu. Et en fait, c'est revenu plutôt pour des raisons vidéoludiques. C'est-à-dire que quand il y a eu, par exemple, Diablo 1, l'idée, c'est d'avoir des environnements qui changent à chaque fois, pas avoir tout le temps la même chose, et pouvoir ajouter la rejouabilité au jeu. Et maintenant, on en trouve pour plein de raisons. Donc, ça peut être juste en termes de force de dev, de plein de choses. Donc, je sais qu'on en reparlera après, mais
je pense qu'on va en parler.
Il y a eu aussi un retour grâce au Spelunky et les autres jeux de cette époque, FTL, etc. Donc, plus récent encore, qui ont relancé l'idée de la génération procédurale avec le roguelike qui est devenu du roguelite. Mais je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est aussi ça qui a redonné de l'intérêt à la génération procédurale ces dernières années.
Clairement, clairement. Je pense que c'est un sujet qu'on va largement aborder dans le dossier. Juste avant d'attaquer ce dossier, on va vous laisser vous présenter. Qui commence ? Sébastien, Arthur ? Sébastien.
Allez, alors bonjour. Je m'appelle Sébastien Dubois, je suis programmeur. Et pour faire vite fait le tour de ma carrière, j'ai commencé chez Ubi pour tout ce qui est jeux vidéo pendant 6 ans, entre autres sur Might and Magic Heroes Kingdoms et aussi sur d'autres jeux qui n'ont malheureusement jamais vu le jour. Et ensuite, j'ai fait un passage de 4 bonnes années, si je ne me trompe pas, chez Amplitude, sur lequel j'ai bossé sur Dungeon of the Endless avec Arthur, en tant que lead prog. Et donc, c'est le projet qui est le plus en lien avec la génération procédurale. Et puis, récemment, je me suis lancé en solo sur un autre jeu dont on parlera peut-être un peu plus tard.
Très bien. Et Arthur ?
Moi, je suis game designer chez Amplitude Studio. Je suis arrivé en même temps que Sébastien. Maintenant, ça va faire 6 ans, bientôt. Donc, j'ai été effectivement le designer de Dungeon of the Endless. Et puis, depuis, j'ai travaillé un petit peu sur la plupart des projets d'Amplitude, en particulier Endless Space 2, et des nouveaux projets qui seront bientôt annoncés.
Ah.
Et il y a absolument toujours de la génération procédurale dans tous nos jeux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un topic qui m'intéresse énormément. En tant que designer, c'est une autre approche, par exemple, du level design. On est obligé de se projeter sur comment arriver à le transformer en règles. Et donc ça, c'est ce dont on va discuter maintenant, je pense. Ça va être très intéressant. Puis voilà, à côté de ça, j'organise des game jams avec l'association Game Shaker. Et voilà, et je m'intéresse de plus en plus aussi au support tangible, à l'électronique, etc., pour faire des jeux un peu plus,
physique.
Physique, exactement. Merci.
Eh bien, merci pour cette présentation. Ce sujet va être porté par Gugli. Gugli, ton heure de gloire est arrivée.
Alors, pour parler de la génération procédurale, déjà, je vais prendre le terme complet, qui est plutôt la génération procédurale de contenu utilisé dans le jeu vidéo. C'est ce que j'ai pris comme définition, on va dire. Donc la génération de contenu utilisé dans le jeu vidéo, on voit à peu près ce que c'est. Le contenu dans le jeu vidéo, ça peut être plein de trucs, ça peut être des textures, ça peut être des sons, ça peut être des niveaux, c'est beaucoup de choses, des règles de jeu. Et donc tout ça, on veut générer ce type de contenu. Et après, il reste le mot procédural, puisque si on veut générer du contenu, on peut soit mettre un designer quelconque qui va faire le boulot de designer, soit du son, soit de la vidéo, soit du machin. Et ou alors, on peut utiliser une procédure, donc un algorithme, un programme, qui va lui-même générer le niveau ou les assets dont on a besoin. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de designer quand on fait de la génération procédurale. Il y en a, et on peut même dire que c'est beaucoup plus compliqué pour un designer. En tout cas, c'est un niveau au-dessus en termes de conceptualisation et de création de niveaux, d'être capable de générer un algorithme qui génère des niveaux, plutôt que de juste dire « Ok, bah, je prends et je fais le niveau ». C'est pas des métiers qui disparaissent parce qu'on utilise des algorithmes. Il y a deux questions qui arrivent assez rapidement quand on se dit « Ah ben la génération procédurale, c'est bien beau, mais la première c'est pourquoi ?» Alors Antoine en a déjà un peu parlé. Il y a deux raisons principales. La première, c'est pour faciliter du temps de production du jeu. C'est surtout le cas maintenant avec des gros open world où on imagine bien que pour un jeu où, qui se vante de millions de kilomètres carrés, on n'a pas envie d'avoir un designer qui va placer chaque brin d'herbe. Donc on veut des outils qui permettent de dire « Ok, ben là ça va être une zone de forêt » et hop, ça place les forêts. On peut aller plus loin et carrément placer, fabriquer des villes, fabriquer des quêtes. Et il y a maintenant des systèmes assez complexes qui permettent de faire vraiment un vrai lieu avec toute la vie qu'il habite. Mais ça, c'est donc l'aspect gagner du temps dans la production du jeu. C'est-à-dire qu'après, une fois que le niveau, on va dire, on teste un peu, on vérifie que tout va bien, et puis on le met sur le CD, et hop, on envoie ça en prod.
Pour rajouter aussi un petit truc, c'est aussi pour la maintenance. En fait, c'est intéressant parce que ça permet de produire les assets, les maps, etc. Mais aussi, ça permet de les adapter très rapidement quand on change, par exemple, une règle du jeu. Imaginez, soudainement, vous avez un jeu de plateforme et vous avez calculé la hauteur d'un saut maximum, et puis soudainement, vous rajoutez le pouvoir double saut dans un jeu de plateforme open world et le joueur va pouvoir revenir en arrière et se mettre à sauter à des endroits que vous n'avez pas prévu. Au lieu de réécrire, de redessiner tous vos niveaux à la main, vous allez pouvoir changer une variable si votre code est bien fait dans votre algorithme et vous allez avoir toutes les plateformes qui vont se surélever suffisamment pour rester inaccessibles.
Bonne précision. Et du coup, le deuxième aspect intéressant de la génération procédurale, c'est de donner donc l'algorithme, de le mettre dans le jeu, de l'inclure dans le jeu et du coup de permettre au joueur, au moment où il joue, de lui générer son niveau ou ses textures ou ses sons ou quels que soient les assets, de les générer, on va dire, on the fly, à la volée, au moment où le joueur lance ou charge le niveau. Et donc ça, c'est, on va dire, les deux grosses raisons pour lesquelles faire de la génération procédurale. Et maintenant, il y a la partie un peu technique qui est comment. Alors là-dessus, il y a un truc qui est dans la génération procédurale, c'est qu'il y a le but de cet algorithme, c'est de faire des choix. Alors il y a des choix qui sont importants, c'est comme bah, par exemple l'exemple de la hauteur de saut des plateformes, ainsi de suite, ça va être des choix qui vont être imposés par les game designers. Et puis il y a beaucoup de choix qui sont en fait inconséquents. C'est les choix qu'on veut laisser l'algorithme dire, bon ben voilà, est-ce que le premier virage c'est un virage à droite ou à gauche, est-ce que c'est un saut ou plutôt il faut se baisser, enfin c'est des choix inconséquents et là-dessus on va vouloir utiliser de l'aléatoire. Alors les ordinateurs sont très mauvais pour faire de l'aléatoire, un ordinateur ne sait pas faire de l'aléatoire, en fait on n'a pas envie qu'un ordinateur donne des résultats aléatoires, donc on utilise du pseudo-aléatoire, c'est ce qu'on appelle en informatique donc en général le PRNG, donc pseudo-random number generator. Et donc, le principe de ça, c'est qu'on va donner ce qu'on appelle une seed à l'algorithme. C'est un nombre, on va dire, on va avoir obtenu qui donne un semblant de hasard, ce nombre d'origine. Et le number generator, donc, va nous générer des nombres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et qui ont chacun une suite de nombres comme ça, un nombre, puis un nombre, puis un nombre, ainsi de suite. Et ils sont tous différents. Avec un intérêt particulier qui est que si on redonne la même seed, on a exactement la même suite de nombres jusqu'à l'infini. Enfin, tous les nombres qui vont, ça va être les mêmes nombres dans le même ordre.
Ce qui, je t'interromps, c'est ce qui peut permettre notamment de faire des tournois ou des duels sur des jeux à forte RNG, typiquement Binding of Isaac ou des choses comme ça, où les joueurs, on leur donne la même seed, donc ils vont avoir la même run avec le même aléatoire et normalement c'est les mêmes objets, les mêmes salles, etc.
Quoi. C'est-à-dire que s'ils faisaient exactement la même chose au même moment, ils auraient exactement le même run, ainsi de suite.
Tout à fait.
Même avant les runs, ça permet aussi, je pense, pas mal de débugger. Parce que quand tu as un problème,
Il y a un truc qui se passe dans ton monde pas comme tu veux, et si jamais t'as pas le mécanisme de seed, tu peux pas retrouver ce même problème, tu sais pas quand est-ce qu'il se reproduira, c'est quand même pas très pratique.
Oui, et c'est un des gros intérêts effectivement des seeds, c'est que ça permet, dans des systèmes de reporting, de log ou quoi, un des premiers trucs qu'on va loguer, c'est la seed de la génération du niveau, et comme ça, en tant que développeur, si un joueur nous dit « Ah bah là, j'ai eu un niveau, on pouvait pas finir, je sais pas quoi, il y avait un saut trop grand, on pouvait pas arriver jusqu'à la fin », hop, on peut avoir la seed, et le développeur va pouvoir refaire chez lui, tourner en debug l'algorithme pas à pas, et voir ce qu'il y a qui a raté dans la génération pour donner ce saut trop long ou ce machin. Et donc oui, pour revenir sur la seed, en général ce qu'on fait, juste parce qu'on se dit oui mais la seed elle a besoin d'être en random, parce que comment on fait si l'ordinateur il sait pas faire de random? En général on prend la date du système ou on mélange ça avec le numéro de série du processeur ou des données comme ça qui sont qui ont aucune chance d'être les mêmes d'un joueur à l'autre et d'une session à l'autre. Et on en met suffisamment pour qu'on ait un truc, ça peut dépendre des paquets réseaux, ça peut dépendre d'un tout un tas de trucs. On met un truc qui donne une impression de hasard, et du coup, tout le reste va en découler. Et ça, c'est comme ça que les ordinateurs font à l'heure actuelle pour faire des choix. Et dans le cadre de la génération procédurale, c'est comme ça qu'on fait pour faire tous les choix inconséquents, qui sont donc des choix qui ne sont pas contraints, qui donnent la variété en fait, à ce qui est généré. Il y a d'autres façons d'avoir des trucs générés procéduralement, je pense pour des textures ou des sons, où on va se baser sur donc des bruits, au sens algorithmique du bruit. Donc il y en a plein pour faire des textures, les bruits de Perlin, les bruits de simplex, ainsi de suite. Et donc ça, c'est plutôt pour générer des trucs en 2D ou des sons, enfin des sons, donc c'est de l'intensité en fonction du temps, donc c'est en 2D, ou des textures qui peuvent être en 2D ou dépendre du temps, donc là, des textures en 3D. Et il y a une autre façon, je vais en parler rapidement, pour faire la génération procédurale, qui est utilisée, par exemple, tu en parlais dans Dwarf Fortress et dans quelques autres choses. Ça consiste à faire une génération, on va dire, itérative. C'est-à-dire qu'on va implémenter une physique suffisamment chaotique. Par exemple, la physique de « Ah, ben, s'il y a de l'eau qui circule sur un rocher, ça va l'éroder petit à petit. » On va mettre tout un tas de règles qui font des orages, des machins, enfin, des précipitations, de la végétation, ainsi de suite. Et un ordinateur, comme c'est plutôt costaud, bah on va lui faire générer 60 millions d'années d'érosion. On part d'une plaine plate, on lui fait générer 60 millions d'années d'érosion, et puis on voit ce que ça donne. Sachant qu'il va y avoir un petit peu de pseudo-aléatoire pour où est-ce qu'éclatent les orages, ou je sais pas quoi. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, on va avoir un résultat complètement différent, mais qui aura toujours les mêmes règles que ce qu'on voit dans le monde réel, de y a des vallées, puisque l'eau a creusé à cet endroit-là, des rivières qui font des bras, des forêts en bordure de rivières, ainsi de suite.
Il y a peut-être un petit côté plus cohérent que donner toutes ces règles soi-même, et si on en oublie, ça fait un truc un peu moche, ou alors il n'y a que des falaises où il n'y a pas de montagne, où il n'y a pas de rivière, parce qu'on a oublié des trucs, quoi.
C'est potentiellement un double tranchant, parce qu'aussi il y a une perte de contrôle. C'est-à-dire que pour un game designer, c'est difficile de dire « Ah, il ne va pas y avoir de falaises de plus de... » je sais pas combien de mètres de haut dans ce genre de truc, parce que ça peut arriver. Et donc.
Et après, ça oblige quand même à devoir prévoir quand même pas mal de choses, parce que si tu te dis, ah, c'est chouette, je vais faire plein d'éclairs, et puis je vais faire genre du gel et de la grêle, il faut aussi essayer de voir comment ils vont interagir entre eux. Qu'est-ce qui se passe si un endroit qui a gelé, je lance un éclair? Bon, bah, si ça n'a pas été prévu, du coup, ça risque de faire un truc. Enfin, ouais, pas du tout prévu, bizarre. Quoi. Et donc, ça force aussi, j'imagine, les game designers, ou alors même. Les programmeurs à essayer d'anticiper pas mal ces problèmes. Donc plus tu rajoutes de variables, plus il faut essayer de voir comment elles interagissent entre elles.
Oui. Après là, pour la génération itérative, c'est des trucs assez statistiques où on fait beaucoup beaucoup d'itérations et on espère que s'il y a des petits glitches à un moment et qu'il y a un orage qui pour une raison quelconque fait un cratère de 10 mètres de rayon, 10 millions d'années après, ça se verra plus. Donc voilà. Je pensais commencer par quelques exemples pour voir un peu rebondir sur le pourquoi et le comment de chacun de ces exemples. Alors le premier, c'est pour présenter le nom qui pourra en intéresser certains, qui est Houdini. Donc peu de monde a forcément entendu parler, c'est un progiciel que donc les gens ne connaissent pas forcément, qui est beaucoup utilisé dans le cinéma, mais aussi maintenant de plus en plus dans le jeu vidéo, et qui est en fait un progiciel de génération procédurale. C'est-à-dire que vraiment leur cœur de métier, c'est de permettre de faire que ce soit des effets spéciaux ou des mondes ou des lieux. Vraiment, c'est un logiciel qui permet donc de faire de la génération procédurale très bien maîtrisée et qui est beaucoup utilisé dans le cinéma et maintenant plutôt dans les open world.
Donc, du coup, c'est quoi? Enfin, ça génère quoi? Des décors
Alors, ça peut générer beaucoup de choses. J'ai pas fait le tour intégralement de ce que ça pouvait faire, mais ça va de un joli effet d'explosion à une montagne avec de la végétation partout, quoi.
J'ai vu justement il y a quelques jours un générateur de maison style Look Fantasy est absolument extraordinaire, où tu vois tous les toits en pente avec les fenêtres et tout qui sortent de ce générateur.
Ouais, et puis c'est enfin, le truc est vraiment bien foutu. Genre, ouais, je crois qu'il gère les quartiers, tu vois, il va faire des quartiers de commerçants, des quartiers de d'artisans, ainsi de suite, puis les châteaux royaux, ainsi de suite. Et du coup, tu as une ville médiévale qui ressemble à n'importe quelle ville médiévale d'Europe, c'est-à-dire un petit peu n'importe comment, mais avec une cohérence quand même. Et c'est vraiment impressionnant si effectivement il y a plein de trucs à voir sur ce logiciel.
C'est pas mal pour donner un côté organique en fait au contenu qu'on génère. Et j'ai vu aussi que c'était utilisé pour faire des simulations de fluides par exemple, pour après être réutilisé dans des jeux qui vont pas faire eux-mêmes la simulation, mais qui vont essayer de s'approcher de l'effet donné par quelque chose, par un simulateur hyper puissant comme peut être Houdini. Ouais, ouais.
J'imagine que ça coûte un bras, ça, non ?
Ouais, c'est un progiciel, donc oui. Je sais pas s'il n'y a pas des versions. Non, je pense
c'est
pas.
C'est dommage.
Pas
ça,
d'évaluation, machin.
Ça donne envie de lancer juste pour voir ce que voilà. Ça donne et jouer à créer des trucs, quoi.
Tu peux regarder leurs vidéos, je pense, les vidéos des gens qui l'utilisent, c'est déjà sympa, quoi. Donc, maintenant, un autre exemple beaucoup plus petit, on va dire beaucoup plus micro, c'est le choix de la prochaine brique dans un Tetris. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est pas vraiment de la génération procédurale, machin.
Déjà, parce que c'est jamais la bonne.
Mais c'est le but. Et là, si on revient sur le pourquoi et le comment, bah, le pourquoi, c'est permettre qu'il n'y ait pas une seule partie de Tetris. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que si jamais toutes les parties de Tetris, c'était les mêmes briques dans le même ordre, mais en fait, on pourrait trouver des solutions de Tetris. Ça rendrait quand même le jeu vachement moins drôle de dire, ok, bah alors la première, tu la mets là, la deuxième, tu la mets là, et puis tu vois ta solution. Et... Enfin bref, ça aurait vraiment aucun sens. Et donc là, on se rend bien compte que sur ce type de jeu, les puzzle games ou les jeux de petites, on va dire, de manip ou ainsi de suite, c'est très intéressant d'avoir. Alors là, la génération procédurale, c'est vraiment juste un choix parmi. Je sais pas, il y a six trucs possibles au Tetris ? Je sais plus. Bon, bref, il y a un choix parmi N cas possibles. Et donc là, évidemment, ça utilise le pseudo-random generator qu'on a vu avant, qui est de manière très simple, en disant « Ah, ben on va prendre un nombre entre 1 et 7, et pour le suivant, et à chaque fois, on prend un nouveau nombre. » Et effectivement, je pense pas que ça ait été beaucoup utilisé dans Tetris, mais on aurait pu imaginer que « Ah, oh, ben j'ai eu un bug et j'ai eu 200 barres droites d'affilée. » Alors là, en fait, ce genre de bug, tu les signales pas, tu dis « Ouais, trop bien !» Mais avec l'acide, on pourrait s'apercevoir de « Qu'est-ce qui se passe ?» Et évidemment, là je simplifie un peu, mais en fait, Tetris, il y a aussi des règles dans les versions, peut-être pas dans les toutes premières versions, mais depuis très longtemps, il y a des règles pour éviter justement d'avoir trop souvent les mêmes barres, parce que ça nuit au gameplay. Donc on voit là déjà que, ouais, le random c'est bien, mais il faut tout le temps un petit peu de game design derrière, parce que sinon ça fait un petit peu n'importe quoi. Et donc, troisième exemple que j'avais, c'était, qui est là aussi un peu un exemple micro, mais pour montrer la variété des possibilités d'utilisation de l'aléatoire, c'est le loot aléatoire dans un action RPG type Diablo, ou dans un même roguelike, ou dans tout ce genre de choses, le principe de loot aléatoire. Et j'ai noté à ce propos de cet exemple deux points intéressants. Le premier, c'est que, comme dans le Tetris, on s'aperçoit rapidement qu'on veut du contrôle. On n'a pas envie que le joueur il puisse looter l'épée ultime sur le premier squelette qui tue. Ça donnerait une histoire rigolote, mais en même temps, ça serait assez bizarre d'avoir, voilà, t'as looté l'épée ultime et tu peux aller finir le jeu en demi-heure parce que tu vas tuer Diablo en deux coups avec cette épée, quoi. Et donc, on veut des tables de loot qui progressent petit à petit pour que tu sois obligé de tuer pas mal de squelettes pour pouvoir tuer le premier boss. Et puis, dans le premier boss, t'as des chances d'avoir une bonne arme qui te permet d'avancer et ainsi de suite. Et donc là, c'est là qu'il rentre du game design un peu type bandit manchot.
Ouais, non, exactement. En parlant de casino, c'est là où on peut évoquer justement le fait que notre esprit humain déteste l'aléatoire et essaie de trouver des patterns toujours. Et du coup, même avec un jeu complètement de hasard, type casino, on va essayer de trouver des raisons, les fameuses martingales. On se dit, ok, voilà, donc ça forcément, si j'ai fait trois fois noir et que c'est jamais tombé, ça va tomber noir forcément quatrième. Et en fait, l'esprit humain vraiment a besoin de ça pour ne pas être frustré. Donc quand on design le loot d'un jeu, on va s'assurer justement qu'il n'y ait pas cinq fois d'affilée un loot pourri, alors que l'aléatoire peut, bien entendu, produire ce résultat-là. Alors, on va créer la règle qui dit, au bout de 4 loots en dessous de la moyenne, on s'assure que le cinquième soit bon, parce que sinon, alors que l'aléatoire le permettrait, ben, le joueur, lui, serait trop frustré.
Oui, effectivement. L'humain a vraiment tendance à sous-estimer les potentielles séries dans de l'aléatoire. Genre, il suffit de tirer à pile ou face, vraiment, et tu fais sans lancer, tu t'aperçois que tu as des séries de 6 ou 7. Ben, c'est normal, en fait.
Je sais que Hearthstone le fait sur l'ouverture des paquets, c'est-à-dire qu'il y a un, je sais pas comment ils appellent ça, un pity threshold, un truc comme ça, un seuil de pitié. Si t'as pas de légendaire pendant un certain nombre de paquets d'affilée, t'es sûr d'en avoir une. Et du coup, les joueurs essayent de trouver ce seuil, en fait, pour savoir combien de paquets il faut acheter pour être sûr d'avoir une légendaire. Donc, ils sont obligés de faire des études statistiques sur des gens qui ouvrent énormément de paquets.
Il y a des jeux qui le donnent. Je sais que je crois que c'était Fire Emblem sur mobile, qui était sorti il y a un an ou deux, un truc comme ça. Où, pareil, tu lootais des persos dans certains cas. Donc, tu les achetais avec des monnaies que tu pouvais acheter avec des vrais euros. Et du coup, ils avaient un moment mis ce système de pitié aussi, où plus tu avais des trucs moins bons, enfin, plus tu avais des persos pourris, et plus ton score il montait, et plus tu avais un bon score, plus tu pouvais avoir des bons persos. Et normalement, je crois qu'il me semble qu'il l'affichait quelque part, au moins pendant un temps.
Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus de pays qui commencent à légiférer dans le sens de rendre ces trucs-là disponibles.
On en parlait, oui, même avec les lootbox, etc. On en parlait déjà à l'épisode d'avant. Ouais.
On en reparlera aussi tout à l'heure, mais dans Dungeon, on a un score de karma, justement, qui ressemble à ce score de pitié. C'est-à-dire que si la personne se prend vraiment que des trucs négatifs dans la gueule, bah derrière, on augmente en tout cas les chances de l'événement positif et vice-versa.
Histoire que la partie soit à peu près équilibrée, quoi.
Je l'ai pas trop vu, ce karma.
Il est léger.
Noob.
Et donc, un dernier intéressant sur le loot, c'est que une utilisation en fait du principe de seed, c'est de servir d'anti-triche. Alors, je pense que c'est un peu utilisé maintenant. L'avantage de la reproductibilité, donc de pouvoir faire exactement la même séquence de nombres aléatoires à partir de la même seed, ça permet par exemple à un jeu type Diablo de dire ok, bah, le client va simuler tous ses loots, enfin va tout simuler en local, mais par contre au début, au moment où il charge le niveau, il va envoyer sur le serveur la seed qu'il a choisie et il va dire quel monstre il a tué dans quel ordre. Et juste avec cette information là, le serveur il est capable de resimuler et de savoir exactement ce qui a été droppé, puisque à chaque fois c'est juste, ça dépend juste de l'ordre des monstres et de leur niveau, enfin voilà. Et du coup, le serveur n'a pas besoin de tout resimuler exactement les mouvements, les clics de souris que va avoir fait le joueur, et va pouvoir avoir une simulation très très légère et du coup valider, on va dire, les runs de plein plein de joueurs en même temps, en hors temps réel. Il n'a pas besoin d'attendre les inputs au fur et à mesure, c'est vraiment, ça va être instantané. Et donc vérifier qu'à la fin du niveau, ou si après tu décides de vendre un des loots que tu as eu parce qu'il y a un système d'échange, ben, on va pouvoir vérifier, ah ben, est-ce qu'il l'avait, est-ce qu'il ne l'avait pas, on sait quels sont les items qu'il y a dans l'inventaire. Donc il y a pas mal, de systèmes anti-cheat qui se basent sur des systèmes comme ça de reproductibilité qui permettent de faire une simulation minimale à moindre coût et donc de vérifier que le client n'a pas essayé de gruger à un instant ou l'autre.
Moi, c'est ce que je fais par exemple sur le jeu que je développe actuellement, ouais, qui est déterministe. Et quand je reçois un résultat, en fait, le résultat peut être soit calculé par le joueur 1 ou le joueur 2. Et il est déjà arrivé que des mecs essaient de tricher et en fait me renvoient un résultat différent. Mais comme j'envoie le seed effectivement final, ouais, après la génération de la map, après la génération des tirs, etc., etc., je peux savoir s'il a triché ou pas. Enfin, qui a triché des deux, en fait, qui n'a pas donné le bon résultat. En le faisant moi-même, en resimulant moi-même le match. Ça, donc effectivement, ça peut être utilisé comme ça aussi. Ouais.
Et c'est inclus dans le jeu ou... enfin, est-ce que toi, tu peux les simuler genre pour toi, pour voir, ou ouais, c'est vraiment le jeu, il check à chaque fois
Alors en fait, à chaque fois que quelqu'un envoie un résultat, ça va le vérifier par rapport à ce qu'il a déjà reçu ou pas d'un autre joueur.
Ok.
Ou d'une tierce personne qui peut regarder les matchs aussi de quelqu'un d'autre.
Et tu l'avais prévu au départ ou t'as fait ça, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a cheaté?
Non, c'était prévu dès le départ.
Ouais. C'est le genre de truc qu'il faut prévoir dès le départ parce qu'il faut avoir la reproductibilité et c'est un truc qui est un peu compliqué à faire après coup, en général. Donc voilà, ça, c'était, on a fini a priori avec les trois petits exemples pour voir à peu près trois petits exemples. Et donc maintenant, j'ai un deuxième aspect sur lequel j'ai trouvé une division intéressante. Donc dans le cadre de la génération procédurale qu'on fournit aux joueurs, j'ai découpé ça en deux gros axes. La première, c'est ce qui est majoritairement utilisé à l'heure actuelle, c'est la génération procédurale d'un univers, d'un monde. On va générer le monde dans lequel le joueur intervient. Donc on va le générer élément par élément, on peut avoir plein de petits éléments mis bout à bout, et la combinatoire, c'est ça qui fait le monde. Et donc par exemple, là j'avais noté, ouais, les dialogues, on a des jeux qui commencent à générer aléatoirement des dialogues et ça apporte une certaine variété, par exemple dans le cas du marchand que tu vas voir 2000 fois et qui te dit toujours exactement la même phrase d'accroche. On se souvient tous de Descartes Kane, non, pour ceux qui et son fameux stay away and listen. Mais et donc maintenant il y a de plus en plus de jeux qui commencent à avoir des approches où il suffit d'enregistrer quelques bouts de phrases et de les mettre bout à bout. Et même si le cerveau est très très bon pour détecter les patterns, ça offre quand même une variété qui donne juste l'impression de ne pas avoir à parler à un robot complet, mais ou en tout cas un robot de niveau 2, quoi. C'est pas le...
Je crois que maintenant qu'on peut même faire ça sur les cinématiques, du coup, elles aussi sont générées procéduralement. Pardon. En fait, tu mets quelques règles, tu sais qu'un un dialogue, par exemple, ça va toujours être un champ contre champ. Et donc après, du coup, tu n'as plus besoin à chaque fois de la re-shooter. Tu as juste à la fin. Voilà, elle se fait toute seule. Quoi. Je crois que c'est les Assassin's Creed, en tout cas, qui font ça, les derniers. Après, les autres, je ne sais pas, mais...
Si, j'avais lu que dans Mass Effect, si je ne dis pas de bêtises, ils se servaient, mais c'était quand même contrôlé dans le sens où l'outil les proposait des scènes, et ensuite, ils sélectionnaient ils faisaient la cinématique sans avoir à tout faire à la main, ils pouvaient, ça générait des plans champ contre champ, et ensuite, ils validaient, mais c'était en dur, par contre.
Et donc, en tout cas, voilà, il y a plein d'éléments comme ça intéressants à générer pour du dialogue ou de la narration, de la petite narration. Donc ensuite, le gros, en général, quand on parle de génération procédurale, les gens pensent surtout au level design. Donc, on a déjà parlé de Minecraft.
No Man's Sky.
Ouais, immense. Il y en a plein. Moi, j'avais un point intéressant que j'avais noté là, qui est que parfois, la génération procédurale peut changer un peu le gameplay. Alors, dans Minecraft, ça peut changer pas trop le gameplay, un peu la difficulté de départ. C'est-à-dire que tu peux avoir des zones de départ qui sont pas très sympas. Moi, maintenant, je crois qu'ils ont corrigé un peu leur truc. Mais dans les premières alphas, tu pouvais avoir des zones de départ vraiment vaches et du coup, vraiment galérer au début.
T'as Don't Starve qui est vraiment... Ouais. Où la zone de départ est assez importante, où tu peux passer 5 jours à courir, à en trouver un endroit sympa.
Ouais, effectivement. Et donc, là-dessus, ça peut effectivement changer un peu la difficulté. Donc là aussi, c'est un problème de game design. Comment on fait pour que la génération procédurale soit équilibrée? Bon, bah, y a... tout un tas de contraintes à mettre en général sur la génération pour éviter que tu spawns ton monde Minecraft et t'as 3 biomes de désert autour de toi et t'as pas un arbre et t'as des zombies partout. Dans le même genre, alors là c'est beaucoup plus anecdotique, mais j'ai pas trop, enfin il y a d'autres exemples, mais si on prend par exemple PUBG et le, alors c'est vraiment minime, c'est la météo qui est aléatoire quand tu lances une map, ça a quand même un effet assez radical sur le gameplay. Quand t'es de nuit avec la pluie, t'y vois rien, t'entends rien, tu vois, il y a le côté brouillard, ainsi de suite, et ça change vraiment la partie. Enfin, c'est deux jeux différents. Les jeux ne peuvent pas être joués de la même façon. Et donc, il y a tout un tas de jeux qui exploitent la génération procédurale à cette fin-là en disant « Ah, ben, on peut avoir de la variété de gameplay.
Ouais. » C'est intéressant parce que ça montre que... Enfin, ton exemple, je trouve qu'il montre que... ça intervient vraiment à tous les niveaux, parce que quand on pense génération procédurale, on s'imagine tout le monde, soit tout le jeu, soit toutes les règles, soit toute la musique, etc. Là, c'est vraiment juste des petits trucs en se disant, bah tiens, juste au hasard, on va tirer un ou deux trucs, ça change un petit peu le jeu, un petit peu le gameplay, parfois un petit peu le monde, mais pas forcément beaucoup, et juste ça suffit à faire des trucs un peu sympas. Quoi.
Et justement, pour rebondir là-dessus, en fait, on s'aperçoit que la façon la plus, on va dire, la plus simple de générer beaucoup de variétés, c'est de faire de la combinatoire. Et d'avoir deux éléments indépendants générés aléatoirement, mais qui du coup, ben, si tu as 10 choix d'un côté et 10 choix de l'autre, ça fait de suite 100 possibilités. Et si chacun de ces trucs ont un impact vraiment important sur le gameplay, ben, ça fait 100 gameplays différents qui peuvent être super variés. Et là, donc, on peut parler de tout un tas de jeux qui font ce genre de choses très bien. Dungeon and the Endless, j'avais noté aussi les Isaac ou Slay the Spire qui ont vraiment des mécaniques de combo où la génération aléatoire fait que les runs se ressemblent pas du tout dans la façon d'être joué. Et voilà. Et donc ça, c'est un truc très intéressant et c'est ce qu'on regroupe en général quand on parle de phénomènes émergents.
Après, c'est pas, enfin, il y a aussi des cas où c'est pas forcément avec de la génération procédurale. Enfin, avec ton exemple que tu donnais, je pensais aussi aux derniers Zelda où en fait ils ont défini plein de règles dans leur monde telles que si tu, enfin,
le feu ça brûle.
Ouais, voilà, le feu ça brûle, les éclairs ça fait mal, l'eau sur la terre ça fait que la terre elle glisse. Si tu appliques une force sur un objet, il va, enfin, subir la force et du coup se déplacer. Et en fait, ils ont, je pense eux-mêmes, défini comment ça allait se combiner entre eux, et ce qui fait qu'on a, du coup, ça fait pas mal de gameplay émergent. Mais du coup, je suis pas sûr qu'on puisse, enfin, vraiment parler de génération.
Ça génère des situations, mais.
Plus design systémique que de la génération.
Voilà,
c'est ça, c'est le gros truc du moment, le gameplay par système. Bah, Ubisoft en fait énormément, notamment je pense à Far Cry, même Ghost Recon Wildlands, je crois que je le faisais pas mal, où on peut se retrouver à des gens qui attaquent des animaux sauvages, tu sais pas pourquoi, c'était pas du tout prévu, mais ils étaient là, ils se sont rencontrés et bah, ils se battent entre eux.
Les animaux qui font le boulot pour toi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, mais du coup c'est plus de l'ordre du gameplay émergent que vraiment de la génération procédurale. Mais dans les deux, tu peux avoir un peu le même résultat, mais pas forcément la même mécanique.
Disons que dans les gameplays émergents, en fait, c'est lié à la décision du joueur. C'est-à-dire que si dans Zelda, tu veux toujours utiliser du feu, ou je pensais un peu à Magica qui faisait des trucs comme ça avec beaucoup de systèmes de combos, mais c'est laissé à l'appréciation du joueur. Et en pratique, une fois que tu as trouvé ton combo qui te plaît bien, bah, tu vas souvent utiliser que celui-là, même si tu aurais pu trouver d'autres trucs qui t'auraient plu aussi. Et c'est vrai que là-dessus, quand le monde force l'aléatoire des situations, bah, tu es obligé de t'adapter et donc de dire « Ah ben bah, là, je peux pas utiliser mon super combo de bombe de feu que j'utilise d'habitude, je vais utiliser autre chose et découvrir des nouveaux trucs. »
Bah, c'est ce que je crois que c'est Yves Guillemot d'ailleurs qui disait ça, qui essayait de proposer des expériences où chacun racontait sa propre histoire et créait sa propre histoire. Et l'idée, c'est que deux personnes n'aient pas la même expérience de jeu et qu'ils trouvent leur plaisir chacun dans justement ces événements qui n'étaient pas vraiment prévus. Quoi.
Bah, je pense que c'est ce vers quoi les plus gros jeux tendent de plus en plus maintenant. Essayer d'avoir un monde qui est tellement vaste que dans tous les cas, tu ne pourras jamais tout faire, mais qu'au moins, toi, tu auras ta propre histoire et du coup, tu seras beaucoup plus investi. Si bah, tout le monde fait la même run.
Bien corpo.
Mais du coup,
non,
là,
non,
le discours est corpo. Non, c'est bien.
Mais du coup, là, c'est pas vrai. Enfin, ouais, là, on sort un peu de la génération procédurale. Quoi. Puisqu'en fait, ce qui est utilisé dans les jeux AAA et tout, c'est très contrôlé. Justement, il n'y a pas trop d'aléatoire. C'est juste que le joueur va pouvoir choisir la saveur qu'il donne à son expérience. Mais c'est pas le jeu qui lui impose ah, bah là, t'es obligé de jouer en mode discrétion parce que de toute façon, il y a du brouillard et tu veux pas pouvoir jouer avec ton super fusil de sniper ou je sais pas quoi. Et donc, pour revenir sur la génération procédurale, là, on a vu pas mal de cas. Et effectivement, les gameplays émergents, c'est un cas typique de le design n'a plus beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que ça peut être très, très intéressant et ça peut être même une volonté. C'est pas un manque de contrôle au sens péjoratif. Mais c'est vrai qu'en tant que game designer, on peut avoir des envies de justement mieux calibrer l'expérience de jeu et de savoir un peu mieux ce qui va se passer, ce qu'on va offrir aux joueurs. Lui dire ah ben voilà, tu vas avoir plein de gameplay différents et je peux même pas te dire exactement à quelle sauce tu vas être mangé.
Je dirais même que c'est le cœur du design de l'algorithme, ouais. D'un point de vue du game designer, ça va être de contraindre petit à petit le chaos initial du générateur. Ouais. Et du coup, on passe notre temps en fait à définir les règles qui vont s'assurer que l'expérience soit intéressante.
Ouais, sélectionner dans le sous-ensemble des possibles les éléments qui sont intéressants.
Il y a un exemple, par exemple, c'est celui de Into the Breach qui vient de sortir là, enfin, il y a quelques mois maintenant, par les créateurs de FTL. Justement, FTL était critiqué pour être parfois vraiment dur dans son aléatoire et peu maîtrisé. Et du coup, ils ont pris une autre approche très maîtrisée. Justement, le level design généré dans le jeu, en réalité, est très, très contrôlé. Tous les points importants des cartes sont prévus à la main manuellement. Et ce ne sont que des éléments très secondaires, comme l'emplacement des montagnes, qui ont quand même une importance, mais qui sont placés différemment d'une partie sur l'autre. Donc, en fait, il y a assez peu d'aléatoires dans Into the Breach.
Ça n'en fait pas un jeu facile pour autant.
Ça, c'est vrai.
Ceci dit, ils ont fait un post-mortem sur FTL où ils expliquaient que pour laisser plus de liberté aux joueurs, ils étaient obligés de rajouter des contraintes, et notamment vis-à-vis du boss, le boss de FTL qui est très dur, hein, on ne va pas se le cacher, et qui demande d'être connu pour pouvoir être battu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arriver avec n'importe quelle stratégie au boss et gagner, et ce qui était assez déceptif pour beaucoup de joueurs, c'est-à-dire qu'on perdait l'aspect intéressant des roguelikes de « je joue comme j'ai envie et comme la partie me guide, et à la fin je vais gagner si je suis bon ».
Oui, puis tu savais pas forcément ce que t'allais avoir comme loot sur tes runs, et du coup, des fois, t'arrives, t'avais, je sais plus, genre 8 mondes, comme ça, enfin, ou 6 mondes, t'arrives à la moitié, tu fais, waouh, j'ai toujours pas tel type d'arme ou tel truc, je vais jamais y arriver, je m'arrête là, puis je recommence, quoi.
C'est ça. Du coup, ils ont été obligés de surcontraindre un petit peu Into the Breach, en mode, choisir au niveau des maps comment ça se passait, etc. Mais pour apporter plus de liberté, ils ont réduit la difficulté du boss, de manière à ce qu'il soit battable par un petit peu n'importe quelle stratégie. Ils disaient, c'était un peu compliqué pour eux, parce qu'ils sont passés d'un jeu un petit peu de niche pour hardcore gamer à un jeu beaucoup plus grand public, mais du coup beaucoup plus fun, quoi, clairement.
Je pense qu'il y a un peu le même type de problème dans des jeux comme Slay the Spire ou ce genre de jeu.
Oui,
où
totalement.
Tu peux t'enfermer sans le savoir dans une situation qui va être très très difficile, voire ingérable.
L'avantage dans Slay the Spire, c'est que c'est des cartes, donc ils ont des statistiques sur les cartes, sur comment elles sont jouées, quel taux, est-ce qu'elles fonctionnent ou pas. Donc c'est facile d'ajuster sur juste une carte, je pense.
Ouais, c'est plus facile. Et puis même les parties sont rapides et ainsi de suite, donc le côté
oui, parce que Dungeon and Dragons, les parties sont un petit peu plus longues.
Oui, on sait.
Le côté punitif peut être plus dilué, on va dire, si t'as la partie, elle dure pas longtemps. Mais donc du coup, là, je voulais parler d'un dernier point qui est assez intéressant, que j'ai vu là en cherchant pas mal sur la génération procédurale, un peu émerger dans des projets souvent indépendants assez récents, qui consiste à faire de la génération procédurale centrée sur l'expérience que va avoir le joueur. Ça consiste par exemple à dire, plutôt que de dire on va générer un monde, un niveau crédible, c'est plutôt de dire ok, en fait on veut que le joueur il aille d'abord chercher une clé pour ouvrir, enfin d'abord trouver une porte, puis la porte est fermée à clé, il doit aller chercher une clé, donc là on a un deuxième chemin, il faut qu'il ait un moyen de revenir rapidement, ainsi de suite. On va dire ok, après il voit un boss, on peut gérer un petit peu, on va dire l'histoire en fait. Ce qui va être généré, c'est pas le monde dans lequel le joueur vit, c'est l'histoire qu'on va raconter au joueur. Et donc, ce qui va se passer, dans quel ordre, ainsi de suite. Et c'est quelque chose, donc j'ai vu il y a un projet qui s'appelle Unexplored, qui est un jeu qui vraiment base sa génération procédurale là-dessus, en disant, ok, ben on veut que le joueur, il n'ait jamais, par exemple, il n'ait pas de backtracking, donc pas besoin de repasser à des endroits où tu es déjà passé, où tu as déjà tué tous les monstres, et c'est pas très intéressant. Et du coup, en centrant la génération procédurale sur qu'est-ce que doit faire le joueur, ben c'est beaucoup plus facile de dire on va toujours s'arranger pour que nos salles ou le layout de nos niveaux, ils permettent de ne pas faire de backtracking. Et que donc, dès que tu as trouvé la clé qui te permet d'ouvrir telle autre porte, ben tu as toujours soit un téléporteur ou quelque chose comme ça qui va te ramener directement à l'endroit duquel tu es parti et où tu avais besoin de la clé. Et ce genre de mécanique est assez intéressant parce que ben, effectivement, ça permet, c'est une approche assez différente, mais qui permet quand même de vraiment maîtriser le temps des parties, la durée des parties, ce genre de choses, avec une approche un peu méta, on va dire, puisque en fait, ce qu'on génère vraiment au début, c'est ah, qu'est-ce qui va arriver aux joueurs, et on peut des choix narratifs aussi qui peuvent être plus faciles à faire, de la narration, on va dire, intéressante. On peut dire ah ben voilà, on va toujours rencontrer le boss, et en fait, ou un allié, puis après il nous trahit, et ainsi de suite, avec des choix comme ça sur quelle va être l'expérience du joueur. On génère ça et ensuite on s'arrange pour faire un décor autour qui va donner ce résultat-là. Et c'est une autre approche, mais qui visiblement commence à être exploitée par des indés et à donner des résultats qui ont l'air assez intéressants.
Il y a un autre exemple, c'est Rimworld qui met vachement en avant son expérience director, du coup, puisque c'est comme ça qu'on appelle cet algorithme, cette IA qui est capable un peu de s'assurer que le joueur soit en train de vivre quelque chose de cool. Et qui va donc dans ce jeu où on gère une colonie s'assurer qu'il y ait toujours quelque chose d'un rebondissement, un événement climatique et une difficulté qui varie en fonction de l'expérience de l'utilisateur. Et ça c'est très intéressant parce que nous en tant que game designer finalement on travaille juste un peu dans notre tête, on réfléchit comme ça, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord théoriquement à ce que va vivre le joueur, aux émotions, au plaisir qu'il va ressentir, qu'est-ce qui va le captiver dans le jeu, etc. Et ensuite on le traduit en level design, donc du coup pouvoir parler à l'algorithme directement avec notre langage initial qui est celui de l'expérience, bah c'est super puissant.
Ouais, et donc, il y a le directeur de Left 4 Dead 2, ou le 1, le 2, je ne sais pas, les deux.
Dans le 1 aussi. Ouais.
Ouais, qui est effectivement, alors là, c'est plutôt restreint, on va dire, mais c'est pareil, c'est l'idée de dire, ah ben là, on voit que les joueurs, ils ne sont pas trop stressés, bon, ben, on va leur rajouter une petite vague de zombies ou un petit boss, un truc comme ça, et pour relancer la machine. Et donc là, c'est effectivement tout un tas de trucs où, basé sur plus, on regarde l'expérience du joueur et on essaie de faire une procédure qui va manipuler, entre guillemets, le joueur dans les émotions qu'on veut lui donner. Quoi.
Vas-y.
Il y a un autre exemple qui vient de me revenir, qui est un jeu qui va sortir, du coup, on est un peu plus dans l'actualité. Ça s'appelle GTFO. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, on est enfermé dans un donjon à 4, un jeu coop. Et on doit réussir à sortir de cet endroit, j'imagine, en tout cas dans le trailer, ça fait bien flipper. Et justement, eux, ils mettent à fond, en avant, dans le marketing de ce projet, qui a un expérience director qui va nous en mettre plein la vue. Et en fait, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais c'est évident, enfin, ça paraît vraiment un élément bien vendeur pour parler d'un jeu, en fait. Et pour l'instant, c'est encore très rare, parce qu'on sort toujours l'exemple de Left 4 Dead, parce que c'est le seul qui en a parlé dans des confs de dev. Et un petit peu de 2-3 roguelike ou Dwarf Fortress-like, alors que c'est vraiment très très puissant.
Et c'est effectivement, pour l'instant, je pense que, à part Left 4 Dead, c'est surtout des indés. Et dans Left 4 Dead, c'est on va dire un peu anecdotique parce que la seule émotion qui est gérée, c'est la peur et la tension. Et il n'y a pas vraiment de relief, de ainsi de suite. Y a vraiment, c'est juste un curseur.
C'est justement l'alternance entre le relief et la peur. Ça joue sur cet axe.
Mais il n'y a pas. C'est juste un axe, on va dire. C'est assez linéaire. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas d'amour.
Il n'y a pas,
clairement pas
de romance, de comique, de ainsi de suite, où on pourrait imaginer plein d'axes et du coup faire des trucs un peu plus intéressants. Et donc, effectivement, si on commence, si on se projette, là, tu étais dans l'actualité et qu'on va carrément dans ce qui pourrait advenir dans le futur. Moi, j'ai réfléchi un petit peu à est-ce qu'on risque d'en voir dans les jeux, les grosses productions, les AAA, les jeux comme ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, la génération procédurale dans les AAA, ça restera toujours pendant la prod. Ou en tout cas, je pense que c'est des jeux qui ne veulent pas prendre le risque quand on fait un jeu qui est censé se vendre par palette. prendre le risque que certaines personnes aient une expérience décevante. Donc oui pour les systèmes, mais par contre le niveau général aléatoirement qui peut te donner 3 fois d'affilée sur tes 3 premiers runs un niveau pas terrible, bah, je pense que ça c'est quelque chose dont les game designers, quand il y a on va dire des gros enjeux, bah, seront toujours un peu frileux vis-à-vis de ça, et donc préféreront contrôler. Donc j'y crois pas trop en tout cas pour la génération procédurale du côté du joueur pour les AAA.
Alors pourquoi pas, mais moi tu vois je mitigerais un peu en disant que, parce qu'en fait si tu exclus les AAA, je vais le prononcer à la française, justement la génération procédurale, après quels sont les studios qui restent, ça va être les studios qui vont être moyens ou petits. Et mine de rien, la génération procédurale, c'est quand même très coûteux à mettre en place, parce que même si c'est très puissant et que ça te permet de créer énormément de contenu, il faut déjà créer ce créateur de contenu. Ouais. Et typiquement, sur des petits jeux, tu ne vas pas forcément avoir les moyens et les ressources pour faire ce générateur de contenu. Donc du coup, il faut forcément déjà être un petit peu plus gros. J'imagine mal, il y a forcément des gens tout seuls dans leur garage qui vont s'amuser à faire un super truc de génération de contenu, mais... par exemple, pour un petit jeu mobile, ils ne vont pas forcément s'amuser à avoir tout un truc de génération aléatoire.
Alors justement, pour avoir fait des jeux mobiles avec de la génération, en fait, ça dépend vachement du niveau que tu veux mettre dans ta génération. Le premier jeu mobile sur lequel j'ai bossé, ça s'appelait Fall Down, et tu avais une balle qui tombait avec des planches qui montaient, et dans les planches, il y avait certains endroits où il y avait des trous, et du coup, il fallait passer dans les trous pour ne pas toucher l'eau de l'écran et pas mourir. C'était tout random. On avait juste mis des règles en disant, on peut avoir entre 0 et 3 trous, parce que, entre 1 et 3 trous, parce que s'il n'y a pas de trous, on est obligé d'avoir perdu. S'il y en a plus, en fait, ça va être des petits morceaux de planche, c'est pas intéressant. Et après, on faisait aléatoirement la taille des trous. On disait, on a joué quelques parties, on fait, là, les trous sont un peu grands, là, ils sont un peu petits, là, il y en a un peu trop souvent, donc on va mettre plutôt souvent 2 trous que 3 ou 1, tu vois. Et en vrai, ça nous a pris vraiment pas beaucoup de temps. Et on n'a jamais fait de level design là-dessus. Et on a fait un jeu en pas très longtemps.
C'était du level design, quoi.
Ouais, non, mais tu vois, finalement, c'était vraiment juste des règles. Et pour un gros truc, ça peut vraiment coûter cher de mettre en place la génération procédurale. Mais pour des petits éléments de gameplay ou de level design, là, c'était vraiment décider les planches. Ça se fait assez bien et ça fait plein de contenu facile.
Moi, le truc que je répondrais plutôt, c'est que quand tu as une production de la qualité d'un AAA, en fait, ce qu'il faudrait shipper avec, ce qu'il faudrait inclure dans le jeu, c'est Houdini, quoi. Et le problème, c'est que Houdini, c'est un logiciel et ça se fait pas en temps réel. La génération, elle va prendre des plombes. Et donc, du coup, c'est là où l'exigence de qualité, on va dire, devient difficilement conciliable avec tu lances le jeu et t'attends pas 6 mois qu'il ait généré ton monde pour pouvoir lancer ta partie. Et donc, je suis d'accord que les AAA pourraient avoir les épaules pour faire des trucs vraiment stylés. Mais en fait, je pense que je peux me planter, hein. Peut-être que l'avenir dira que j'ai eu complètement tort.
On note,
ton note. Le risk-reward, on va dire, pour des gros studios, il vaut pas trop le coup dans l'idée de dire on va faire un super truc de génération procédurale par rapport à on va faire des trucs de génération procédurale pour la prod, on va générer un monde, 2 mondes, 3 mondes, et puis quand on a un qui est vraiment stylé, qui nous satisfait, on va le prendre, on va rajouter les quêtes, on va nettoyer les 2-3 petits glitchs qu'il y a eu à la génération, et on va avoir un truc super stylé. Et là-dessus, je pense que pour les AAA, c'est un peu imbattable.
Après, on a, juste pour finir sur ce point-là, on a parlé beaucoup de level design, de game design autour de la génération aléatoire, mais il y a aussi une composante qui est super importante, qui est la composition visuelle des choses. Ouais. Et autant sur un jeu indé, ça a un peu moins d'importance. Par contre, sur un gros AAA, parce qu'on parlait de AAA, surtout, je pense, pour tout ce qui est qualité visuelle, c'est quelque chose qui est vachement plus difficile à inclure dans la vraie génération, en fait. Avoir quelque chose qui soit beau tout en étant généré, beau ou réaliste, ou voilà. On a vu des choses un peu réalistes avec No Man's Sky en termes de dénivelé, etc. Par contre, tout ce qui est qualité, on voit bien des sols ou des props qui sont utilisés pour les décors, c'est vachement plus basique, quoi. Il y a les animaux qui ressortent un peu du lot parce qu'ils ont fait beaucoup de générations sur les animaux, mais même si c'est discutable pour la qualité.
Donc il y a vraiment des choses absolument horribles.
Ouais.
Non, mais aussi, je pense qu'ils n'ont pas poussé assez loin certains éléments en particulier. Et pendant toute la première version, ils étaient tous de la même couleur. C'est quand même un petit peu décevant. Mmh. Ouais. Des animaux beige, verdâtre. Enfin, j'adore No Man's Sky, pardon.
En fait, moi, quand je pensais plutôt petit jeu ou grand jeu, peut-être que ce n'était pas forcément la bonne terminologie. Ce serait plutôt dire quelle est la quantité en fait, de contenu que tu veux avoir. Enfin, typiquement, si tu veux faire un petit jeu qui en 5 heures va être fait, ça ne sert à rien de faire. C'est pas forcément très utile, peut-être à part pour le défi technique, mais de faire tout un générateur de niveaux alors qu'au final, ton joueur ne va jouer qu'à un niveau parce que l'histoire sera toujours la même. Alors que typiquement, si tu veux te dire je veux un jeu qui soit potentiellement infini, je pense à Binding of Isaac, on est nombreux à avoir un nombre incalculable d'heures dessus, bah, là, ça vaut le coup d'avoir un truc aléatoire parce que tu veux que les joueurs en fait, restent le plus longtemps possible. Alors que, je sais pas, je pense à un jeu comme Her Story, bah, même si le jeu était aléatoire, au final, une fois que tu sais l'histoire, bah, ça ne servira à rien de le faire. Puisque,
complètement. Sauf si tu arrives à faire un générateur aléatoire qui fait des histoires différentes à chaque fois, mais pour avoir un truc du niveau de qualité de Her Story, ça devient
compliqué. En FMV, c'est compliqué, oui.
Ouais, voilà.
Bah, je vous conseille de suivre le projet Nightcall, qui va avoir un peu ce genre de technique, ce qui sera du narratif et qui va avoir des histoires générées aléatoirement, et donc avec même si globalement le scénar est plus ou moins le même, les persos vont changer, les histoires vont un peu changer, même pour chaque perso les histoires vont changer, et ça sera intéressant à surveiller, je pense, ce côté-là.
Ça y est, c'est la fin de Quantic Dream.
Ouais, et on verra.
Et du coup, pour continuer encore plus loin dans le futur, moi, il y a un truc sur lequel j'ai pas trouvé de doc, et en fait je faisais un peu le parallèle entre l'intelligence artificielle et la génération procédurale. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, c'était des algorithmes écrits par des gens qui disaient, bon, bah, dans tel cas, on va faire plutôt ça, avec des pourcentages de chance, ou ainsi de suite. En fait, il n'y avait pas vraiment d'intelligence, si ce n'est celle des programmeurs. Il y avait beaucoup d'intelligence des programmeurs. Et aujourd'hui, on voit qu'on utilise plutôt le machine learning pour faire des intelligences artificielles dont on ne sait pas vraiment comment elles marchent. On sait comment elles marchent de loin, mais on ne sait pas comment elles prennent leurs décisions. N'empêche que le résultat est là. Et je me dis, peut-être que dans quelques temps, on verra des expériences director qui seront en fait une grosse IA en machine learning et qui dira, ok, bah, j'ai des retours, des feedbacks du joueur, je suis capable d'analyser son état émotionnel et derrière, je sais que je dois l'amener dans tel état émotionnel et en fait, le design sera plus de dire, ok, bah, il faut voilà, une séquence de crise, une grosse tension, puis après un relief, puis une partie romantique, puis ainsi de suite et du coup, de laisser l'IA sans savoir trop comment elle fait, et du coup ça permettrait d'avoir quelque chose qui est très adaptatif aux joueurs même, qui au bout de quelques heures de jeu, dizaines d'heures de jeu, l'IA sera vraiment capable de manipuler de manière... Alors après ça pose peut-être des problèmes éthiques, tu vois.
Ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il n'y aura plus de studio après, mais...
Ah non, moi, je pense pas qu'il n'y aurait plus de studio, mais par contre ça veut dire effectivement qu'il faut voir jusqu'où c'est capable de manipuler. Tu vois, si tu dis, si tu règles l'IA pour qu'elle soit en mode full terroriser quelqu'un, t'as pas envie qu'il le retrouve le lendemain en train de baver en position fœtale, tu vois, devant son ordi, juste parce que l'IA, elle a poussé le curseur à fond, tu vois, et donc c'est le genre de truc où tu te dis, bon, où est la limite? Je sais même pas jusqu'où pourrait aller. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de projet comme ça qui allait dans ce sens-là, de dire, oh, on va faire un director basé sur, enfin, du machine learning. En fait, le problème, c'est qu'il faut beaucoup de données, donc beaucoup d'heures de jeu, donc c'est compliqué. Un indé peut pas dire, oh, je vais lancer ça, et puis espérer qu'il y ait des milliers d'heures de jeu dessus. Parce que
le temps que ça devienne bien.
Ouais, voilà, le temps que ça devienne bien. Mais voilà, ça c'est un truc que je me dis, ah, dans le futur, peut-être qu'on verra ce genre de truc et ça peut peut-être donner des petits résultats marrants. Voilà. Bah, c'est tout pour le dossier, en tout cas.
Moi je voulais, ça tombe parce que je pensais à un sujet qu'on n'a pas trop abordé. En fait, on a dit, ouais, c'est cool, qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est un peu compliqué parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. On a dit aussi qu'en fonction des règles qu'on met, il faut souvent rajouter pas mal de règles pour que ça soit cohérent. La génération procédurale, c'est aussi source de bugs parfois, et il faut quand même les prendre en compte parce qu'on utilise, on utilise des choses qu'on maîtrise un peu, mais qu'on laisse un peu faire avec de l'aléatoire. Et dès qu'on met de l'aléatoire, ça peut vite partir dans les mauvais sens. Et il y a pas mal de jeux, voilà, qui peuvent avoir des petits problèmes. Je sais que, je pensais à un truc basique parce que c'était pas très grave. Par exemple, dans Minecraft, je crois que ça y est plus maintenant, mais il y a un moment où il y avait, si on allait assez loin. Je crois que c'était à partir de 12 000 km à pied, donc c'était un peu long. Mais en gros, les modèles mathématiques qu'ils utilisaient, bah, ils commençaient à diverger à partir d'un moment. Et du coup, il y avait les Farlands, je crois que ça s'appelait, où à partir de 12 000 km et quelques, bah, tout était limite en fractal, quoi. Ça partait dans tous les sens. Et ils ont dit, ouais, bon, de toute façon, personne n'ira jamais jusque-là. Forcément, quelqu'un y allait. Mais ils disaient, voilà, la plupart des joueurs, ils n'iront pas là, c'est pas grave. Mais il faut savoir quand même que bah, là, ça allait parce que c'est à 12 000 km, mais si c'est au bout de 1 km. Et que toi, tu testes ton jeu dans les 200 mètres et que tu le sors et qu'après, tu te rends compte que tous les joueurs, ils ont ce problème-là, c'est un peu dommage.
Vraiment. Puis, on n'a pas vraiment évoqué aussi les risques de l'utiliser. Alors, tu parles des bugs, évidemment, c'en est un premier très important parce que, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de débugger quelque chose qui a été généré procéduralement parce qu'on ne peut pas physiquement tester toutes les combinaisons possibles. Donc, je peux vous dire que nos testeurs QA, donc qualité... ont du mal à trouver tous les bugs à cause de ça. C'est une des raisons principales. Et puis aussi, nous, d'un point de vue du résultat, on va avoir des problématiques de qualité. En fait, ironiquement, la génération procédurale, on l'utilise pour créer ce sentiment de la découverte. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on aime les FTL et les Spelunky, etc., pour avoir toujours des nouvelles choses à découvrir. Et ironiquement, quand c'est pas parfaitement maîtrisé et parfaitement fait, eh ben on a une uniformité qui se crée, c'est-à-dire que tous les niveaux paraissent similaires. On parlait un peu de No Man's Sky tout à l'heure, qui s'est bien amélioré depuis. Mais il y avait ce problème, par exemple, une planète entière, on n'imagine pas qu'elle puisse avoir le même biome de partout. Mais comme ils n'étaient pas descendus assez bas dans le détail de leur algorithme, on avait cette espèce de similarité entre tout. En fait, si on a que du chaos, au final, le joueur ne voit plus le caractère ou l'identité de chaque élément. Et donc, il voit la même chose de partout. Donc, c'est un peu le paradoxe de la génération procédurale.
Le cerveau est très bon pour détecter des patterns. Et du coup, dans No Man's Sky, on voit assez rapidement comment sont assemblés les éléments. Ah ben voilà, c'est une planète avec tel type de biome, c'est une combinatoire de tel et tel truc. Et du coup, ça nuit un peu au truc.
Très bien, ça conclut du coup le dossier. On a été à peu près dans les temps cette fois-ci. On s'excuse déjà pour la dernière fois, on était un petit peu long. On va faire une petite coupure musicale avec le morceau Milky Way de Ben Prunty sur la BO de Faster Than Light. C'était donc Milky Way de Ben Prunty sur la BO de Faster Than Light, donc un très bon roguelike dans l'espace avec du coup des rencontres aléatoires, des mondes aléatoires, des drops d'armes aléatoires, etc. Donc un jeu assez représentatif de la génération procédurale. Et avant de reprendre le cours de notre émission, un peu de promo pour un autre podcast Radio Kawa, Poké Freak Show.
Est-ce qu'il est possible de parler de Pokémon tout en abordant des mythologies, des cultures, des légendes et même des sujets scientifiques bien ancrés dans notre réalité? C'est en tout cas le défi que s'est lancé Zenigame. Tous les 15 jours, il accédera à vos ondes pour vous parler d'une créature de poche issue d'un lointain monde qui est en fait le reflet d'une autre. Des Pokémon bien loin de ceux que nous connaissons, mais qui ont le mérite d'exister. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi Game Freak les a fait ainsi? Voilà les questions auxquelles il tentera de répondre. Bref, rejoignez Zenigame pour découvrir l'immense bestiaire du Poké Freak Show tous les 15 jours sur Radio Kawa.
Effectivement, allez jeter une oreille à Poké Freak Show, c'est assez intéressant, même si vous n'avez pas joué à Pokémon du tout ou pas au dernier, etc. Moi, je ne connais pas du tout les Pokémon dont il parle et c'est plutôt sympa. Et ça met en relief un petit peu la culture, notamment nippone. Donc, c'est assez intéressant. On va passer maintenant à l'interview de l'invité. C'est Jade qui drive l'interview.
Oui, alors en plus cette fois on a de la chance, on n'a pas un mais deux invités. Et on les a invités parce qu'ils ont travaillé sur Dungeon of the Endless et je vais les laisser présenter le jeu.
Alors Dungeon of the Endless, pas facile à résumer. Imaginez que vous étiez dans un vaisseau de colonisation avec des bandits mais aussi des militaires, etc. Et que vous arrivez sur une planète et là le vaisseau se fait détruire par des défenses ultra anciennes qui défoncent votre vaisseau et donc vous montez dans un pod de secours et vous vous écrasez sur cette planète mais bien bien en profondeur. Genre environ 12 niveaux sous la profondeur de la surface. Et alors à partir de ce moment-là, le jeu donc consiste à contrôler jusqu'à 4 héros en même temps. C'est un jeu tactique. Vous pouvez aussi partager ces héros entre amis en jouant multijoueur. Et du coup, vous allez devoir explorer porte après porte ce donjon. Vous allez découvrir justement ce donjon général aléatoirement avec des monstres, des trésors, des ressources. Et vous allez construire des modules dans les salles, et c'est là où on a la petite partie un peu tower defense et base building, où en fait petit à petit on prend possession de ce donjon pour réussir à se défendre contre les monstres qui nous arrivent par vagues dessus. Et on fait ça étage par étage jusqu'à rejoindre la surface.
Très bien, bah c'est une description très très claire. Et du coup, la première question, en fait, elle va porter sur les outils qui vous ont été utiles pour développer ce jeu. Alors, est-ce que vous avez eu un moteur dédié pour Dungeon of the Endless? Ou alors, est-ce que c'était juste quelques outils que vous avez développés spécifiquement?
Alors, si on parle de moteur, moteur de jeu, c'est Unity qui est derrière. Mais pour tout ce qui est génération aléatoire, on a dû développer nos propres outils, effectivement. On a passé par plusieurs itérations, une itération très très simple au départ. Et au fur et à mesure des contraintes et des règles qu'on avait voulu fixer à la génération, on a fait évoluer l'outil. On a fait un ou deux reboots, je ne sais plus exactement de l'outil, mais bon, globalement, c'est un truc vraiment très propriétaire qu'on a développé.
Et je dirais qu'il y a deux parties principales dans cet outil. D'un côté, il y a le générateur un peu de l'apparence du donjon. Donc là, où, en fait, on dessine les salles, mais on ne les dessine pas telles qu'elles seront complètement dans le jeu. On dessine en fait les probabilités de toutes les positions où il peut y avoir des choses dans les salles et les formes qu'elles peuvent avoir, etc. Donc on fait ça dans un premier temps, un peu justement directement dans le moteur Unity, on va pouvoir placer des éléments, placer des probabilités pour qu'elles apparaissent, etc. Et on fait ça en fait comme une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on imagine d'abord la forme globale qu'un peut avoir un donjon, puis ensuite la forme d'une section de ce donjon, puis ensuite la forme d'une salle, puis ensuite la forme d'un props à l'intérieur, etc. Donc c'est Sébastien qui a mis ça en place, c'est vraiment très puissant. Et puis le deuxième partie de cet outil, c'est ce qui va générer le contenu des salles, c'est-à-dire ce que va rencontrer le joueur ou la joueuse, et donc ce qu'il va y avoir derrière chaque porte, la puissance des monstres, l'apparition des trésors, les technologies aussi que le joueur va pouvoir chercher à chaque partie, puisqu'elles sont différentes à chaque fois. Et ça, du coup, ça va se régler plus dans des fichiers de configuration textuelle où on va pouvoir tweaker chaque valeur une par une, pour chaque niveau, pour chaque situation, est-ce qu'on est en multi, est-ce qu'on est en train de jouer à un niveau de difficulté élevé, etc. Et ça a été aussi avec une deuxième itération que Sébastien a mis en place pour qu'on puisse dessiner qu'on puisse décrire chaque variable de jeu en fonction d'autant de critères que le designer le souhaite.
Très bien. Et alors du coup, j'ai une autre question. Est-ce que c'est open source? Est-ce qu'il y a une démo de ça? En fait, je demande ça parce qu'en fait, pour justement rechercher sur ce podcast, je suis tombée sur pas mal de productions qui avaient justement montré, pas forcément comment le jeu était créé, mais juste, on va dire, une sorte de prototype. Je pense à Spelunky, qui ont montré en fait leur générateur sur... d'abord, ils génèrent le niveau, et ensuite, ils génèrent ça indépendamment, puis chaque props, enfin, exactement comme ce que tu viens de dire. Et du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait peut-être une conférence? Vous avez parlé d'une conférence.
Il y a une conférence, effectivement, la conférence de Unite Seattle de, je ne sais plus quelle année, 2014, je crois, où j'avais fait une présentation du système, entre autres. C'était en deux parties, sur le côté visuel du jeu et le côté génération aléatoire. Et toute la deuxième partie, effectivement, décrit ça, montre les outils qu'on avait, et effectivement, montre pas à pas la génération du donjon, comme l'a expliqué Arthur, avec d'abord la forme du donjon, ensuite la forme des pièces, leur contenu, les props, etc. etc.
Très bien, du coup, je pense que ce sera très intéressant à mettre dans les liens, pour que justement vous puissiez tester, voir du coup vous-même comment ça marche. Et du coup, tu en as parlé un petit peu justement sur les paramètres qu'il y a pour pouvoir définir justement toutes ces variables. Et du coup, comment ça s'est passé la collaboration entre développeurs et game designers? Est-ce que par exemple, tu t'es je sais pas, tu as créé un petit prototype sur Unity en disant bon ok là j'aimerais bien pouvoir changer la difficulté des monstres, ou alors au contraire c'est vraiment par itération, d'abord vous avez généré le monde, vous avez dit ah non il manque ça donc je le rajoute, enfin, voilà, comment ça s'est passé un peu?
En fait moi au départ je savais qu'on aurait assez rapidement des règles qui allaient venir, qu'on allait devoir imposer à la génération. Par contre, on n'avait pas encore toutes ces règles en tête, comme la plupart du temps dans le game design, on a des choses qui émergent au fur et à mesure. Et du coup, ma stratégie, c'était de partir d'une solution naïve au départ, qui faisait de la pure génération avec du random partout. Et puis au fur et à mesure, l'exposer au game designer, l'exposer à l'artiste, pour voir un peu de ce que chacun avait comme idée d'amélioration et de règles qu'on pourrait rajouter. Et cette première itération, elle était quasi volontairement jetable, c'est-à-dire que on a rajouté ces règles au fur et à mesure, puis on s'est vite rendu compte que le système n'était pas du tout fait pour accepter un nombre croissant de règles comme ça. Donc on a revu notre copie, surtout moi de mon côté, et j'ai refait un système, je suis repassé sur un système qui était beaucoup plus adapté à ce qu'on cherchait à faire en fait, en termes de design, game design, et aussi design visuel.
Ouais, je pense que pour illustrer ce propos, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au début, on avait imaginé, on se concentrait toujours sur le premier niveau du jeu pour simplifier. Donc du coup, on avait des variables pour chacun pour ce niveau-là. Donc combien on va vouloir de monstres, par combien ils vont arriver, combien on va mettre de telles ressources, etc. Et donc ça marchait très bien dans un système simple où on pouvait juste lister en gros les paramètres. Et puis ensuite, on a voulu faire 12 niveaux. Alors du coup, il a fallu commencer un peu à tweaker ce système pour pouvoir expliquer pour chaque niveau comment ça variait, chacun de ces paramètres. Et puis ensuite, on a rajouté le multijoueur et on s'est dit, OK, c'est différent quand il y a un joueur, quand il y a deux joueurs, quand il y a trois joueurs, quand il y a quatre joueurs. Ensuite, on a rajouté les modes de jeu. Et là, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'était une combinatoire absolument ingérable. On ne pouvait pas s'amuser à faire à la limite un fichier de configuration pour chacune de ces combinaisons, parce que ça devenait complètement ingérable. Et donc, c'est là où il a fallu rebooter, effectivement, et imaginer un système, comme je disais tout à l'heure, où chaque paramètre, chaque variable du jeu peut en fait être augmenté ou diminué par tous les autres paramètres qui nous intéressent, comme par exemple, est-ce qu'on est en multi, est-ce qu'on est dans un tel mode de jeu, est-ce qu'on est dans tel mode de difficulté.
Au final, le fait de faire une première version volontairement naïve et que vous avez jeté, ça vous a peut-être un peu permis de faire la deuxième, de savoir ce que vous vouliez faire, de savoir ce que vous vouliez mettre dedans, et peut-être pour toi, en dev, de savoir comment la faire aussi.
Carrément, c'était le but. Ouais. C'était de voir les choses émerger, les premières choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé émerger, les premiers problèmes. Un des trucs qu'on avait le moins anticipé, moi je pense, c'était le côté visuel justement, c'est pour ça que je reviens souvent dessus. C'est, on s'était dit, bon, on va mettre des props un peu partout dans la salle, ça va être joli, parce que notre artiste, il faisait des super design, super props. On s'est dit, on va les foutre au pif et puis ça sera super beau. En fait, pas du tout. Et lui aussi avait son mot à dire là-dessus, c'est-à-dire qu'il voulait avoir un certain contrôle sur la composition des salles, par exemple. Voilà, pour l'équilibre des volumes, l'équilibre des lights, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses. Si on était parti tout de suite sur un système qu'on pensait définitif, je pense qu'on aurait encore plus de choses à casser et à refaire.
Voilà. Du coup, si je comprends bien, vous étiez que 3 sur le projet ou...
La core team, elle est de 4. Donc il y avait un game designer, un producteur, Michael Breton, un artiste, Simon Perrin, moi sur la programmation. Et après, au fur et à mesure de la vie du projet et des besoins, on a rajouté des personnes pour nous assister sur différents...
Et puis on a été aussi bien encadré, c'est-à-dire que Champlitude, l'avantage c'est que voilà, on avait directeur créatif, directeur marketing, directeur artistique, directeur technique autour de nous. Donc voilà, core team évidemment bien entouré au sein d'un studio un peu plus gros.
Pouviez vous concentrer sur faire le jeu.
Oui, c'est ça, ouais. Puis on avait pas mal de liberté sur les plans techniques et design, donc c'était plutôt cool. Et on avait aussi les personnes genre le sound design qui avaient des interventions plus ponctuelles, tout ce qui était lighting, etc., tout ce qui était optimisation graphique, c'est pareil, on avait des gens qui sont venus se greffer un petit peu sur le projet, sur les petites périodes.
D'accord.
Et justement, tu parlais de visuel. Et alors, pour pouvoir mieux préparer cette interview, on a joué forcément à Dungeon of the Endless. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnages de Team Fortress 2, ce qui est assez étonnant. Est-ce qu'il y a une anecdote derrière?
Alors, est-ce que c'était une anecdote? Est-ce qu'on a le droit de la dire? Franchement, on avait envie d'attirer un petit peu l'attention de Valve. Et du coup, on cherchait du contenu un petit peu pour faire un peu du cross-projet. Et du coup, on leur a demandé si on pouvait utiliser les personnages. Alors, on les a un petit peu maquillés, on les a renommés en faisant des petits jeux de mots par rapport à leur BO, etc. Et ils ont accepté assez étonnamment. Ils nous ont répondu et ils nous ont dit que ça ne posait aucun problème. Donc, on n'était vraiment pas sûr du résultat. Et finalement, ça a bien marché. Et on a trouvé comment les intégrer dans notre lore tout en respectant un peu le lore que Valve avait écrit. D'ailleurs, pour écrire ces personnages, on a découvert plein de choses très rigolos sur qui étaient écrits uniquement dans le wiki finalement de Team Fortress 2. Et voilà, donc ça c'est une collaboration assez simple, mais qui s'est très bien passée.
Ok, bah c'est vraiment super, parce que du coup, ça rajoute effectivement, comme tu dis, un peu de lore, et c'est intéressant de voir les personnages justement en dehors de ce à quoi on a l'habitude de les voir, donc c'était plutôt rigolo à voir.
J'imagine que pour Samus Aran, vous n'avez pas demandé par contre.
Oh là là, Nintendo, ils sont peut-être moins... Je sais pas. Mais sinon, aussi au sein même de notre société, je pense que c'est assez rigolo de le faire remarquer. Tous nos jeux... on le mot endless dedans, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on a tous un univers commun en fait à tous nos projets qui s'appelle l'univers endless justement. Et du coup, pour l'anecdote, Dungeon of the Endless a été créé parce qu'il y avait donc Endless Space qui était sorti, donc un 4X dans l'espace, science-fiction. Et puis on allait sortir Endless Legend qui était donc sur une planète, fantasy, etc. Et on avait envie de créer un lien entre ces deux projets. Et du coup, c'est de là qu'est partie en fait l'idée de Dungeon, c'est de venir faire un projet où il y a un vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète fantasy, qui est justement la planète d'Endless Legend. Et donc, du coup, dans ce jeu, on a des références aux deux autres. Et en fait, c'est super fort parce que les joueurs, bien entendu, découvrent notre univers suivant la porte d'entrée qu'ils utilisent et ensuite vont vers nos autres jeux naturellement. Et puis, nous aussi, au sein du studio, ça nous donne un projet commun qui est construire cet univers. Et donc, c'est comme si on bossait un peu tous sur le même grand projet. Et donc, il suffit que quelqu'un ait une idée d'un personnage dans l'un et puis on va aller faire une référence dans l'autre. Et donc, c'est super intéressant aussi d'un point de vue studio.
Surtout que ce monde, vous le cultivez aussi avec les utilisateurs, avec la plateforme Games Together, si je ne dis pas de bêtises. Justement, les gens peuvent proposer des idées, voter, etc. Je crois que vous aviez voté pour une race ou je ne sais
oui,
pas.
Oui, exactement. Tous nos 4X sont donc à la sortie. Il y a 8 factions dans nos 3 4X. Et à chaque fois, il y en a une qui est complètement conçue avec les joueurs. Donc, je précise, on fait tout un concours créatif sur le concept de la faction, sur les visuels, sur leur histoire. Et ensuite, nous, on va refaire faire par les artistes, par l'écrivain, etc., tout le contenu. Donc, on ne prend pas directement le contenu, mais par contre, on s'inspire énormément, bien sûr, des propositions des joueurs. Et ça fait, bien entendu, c'est extrêmement puissant pour l'engagement de notre communauté. Et nous, bien entendu, on est très heureux d'avoir ce côté un peu rafraîchissant, d'avoir des idées qui viennent de l'extérieur. Et donc, la série Endless est effectivement truffée de propositions qui viennent de l'extérieur et c'est très agréable.
Ok, bah justement, ça enchaîne vachement bien avec ma question d'après. C'était, est-ce que vous avez réutilisé des mécaniques, voire du code d'un jeu à l'autre ? Surtout parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de 4X, donc j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de générations procédurales derrière. Donc, est-ce que voilà, y a des choses en commun ?
Il y a un socle technique, un framework qui est un peu commun à tous les projets, mais en termes vraiment de, si on reste sur la génération aléatoire, sur le rendu, etc., non, c'était des choses qui étaient très très spécifiques au projet. Après, je connais pas tous les projets, je connais bien Dungeon, mais Arthur connaît peut-être un petit peu plus les autres projets, mais comme ça, je vois pas de... Si, il y a le système de configuration du jeu. Les fichiers qu'on utilise pour les configurations, c'est un peu, ça fait partie du socle commun des jeux.
Je pense que l'exemple qu'on peut donner qui est commun, c'est ce qu'on appelle la simulation au sein du studio. Mais en fait, c'est quelque chose de très puissant pour nous, les game designers. Le principe, c'est que, donc imaginons dans le 4X, tout le contenu de la partie en cours est décrit dans une hiérarchie. On appelle la simulation, donc vous avez la galaxie à l'intérieur, vous avez des empires, à l'intérieur vous avez des planètes, à l'intérieur vous avez des bâtiments, etc. Tout ça est donc dans des fichiers, et en fait tout est calculé à partir de variables que les joueurs, que les game designers justement peuvent modifier. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, sans toucher au code, modifier le comportement du jeu en profondeur en tant que game designer, sans aller justement embêter un programmeur à chaque fois et tout refaire. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a une forme d'autonomie, on peut itérer rapidement. L'inconvénient, c'est que bon, d'un point de vue performance, c'est pas toujours optimal, mais on est au tour par tour, donc tant qu'on reste au tour par tour, ça va. Et puis, bien entendu, ça nous limite un peu, en fait, parce que, en fait, je dis que tout est possible, en réalité, on ne peut faire finalement que ce que les programmeurs avaient prévu dans cette sim. Et donc, on finit un peu par avoir notre cerveau qui est connecté, branché pour être... pour trouver des idées qui marchent dans la sim, pour surtout ne pas avoir à parler avec les programmeurs, parce qu'ils nous font un peu peur quand même. Et du coup, on finit par parfois oublier de faire des choses un peu originales qui demandent du code.
Ok, très bien. Et alors du coup, une autre question qui, je pense, est assez cruciale dans un jeu qui utilise la génération procédurale, c'est comment vous faites pour gérer l'équilibrage. Donc vous avez déjà parlé du fichier de config et tout ça. Donc je pense que voilà, beaucoup a déjà été... abordé, mais plus vraiment sur le contenu, les vaisseaux, les persos, les items. Comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de parties ? Est-ce que vous avez, je sais pas, après la sortie, vous avez fait beaucoup de patchs ? Enfin.
Alors, on a évoqué tout à l'heure le système de karma. Déjà, c'est un truc un petit peu naïf, mais qui permet de rattraper un petit peu les choses. Donc, le principe, c'est à chaque fois qu'on ouvre une porte, il peut y avoir un événement et il peut être positif ou négatif, plus ou moins fortement positif ou négatif. Plus souvent négatif d'ailleurs. Et donc du coup, on va quantifier, on va essayer, du moins parce que c'est quand même quelque chose d'assez relatif, de quantifier cette difficulté. Et donc on va à chaque fois additionner ou soustraire ce score en fonction si c'est positif ou négatif. Et ça va faire augmenter la probabilité des autres événements. Si jamais on a eu beaucoup de négatifs, on va avoir un peu plus de chances d'avoir des positifs. Et donc déjà, on va s'assurer ainsi d'avoir de plus en plus de contrôle, enfin d'éviter que la partie soit vraiment très difficile pour le joueur. Ensuite, on a énormément de contrôle en fait. On a ajouté petit à petit de plus en plus de contrôle pour essayer de s'assurer que la partie soit juste avec le joueur, on va dire, dans la mesure du possible. Donc, par exemple, les joueurs ils doivent trouver une ressource assez rare pour alimenter les salles. Eh bien, dans un premier temps, à chaque fois qu'on ouvrait la porte, il y avait un tirage au sort. Imaginez, on lance un dé et on regarde combien il y a de cette ressource dans la salle. Parfois, il y en a 0, parfois, il y en a 10. Et bien sûr, des fois, ça devenait complètement injuste avec le joueur. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un certain nombre de choses, comme par exemple cette ressource, qui sont placées dès la génération de niveau. Donc, on place à l'avance où sont toutes ces ressources et on s'assure du coup d'en avoir entre un minimum et un maximum dans le donjon. Pareil, on va placer la sortie à une certaine distance de l'entrée, alors qu'avant, on l'a placée juste à un moment, on ouvrait une porte et il y avait la sortie, mais on ne le savait pas à l'avance où elle allait être. On va placer voilà, les marchands, etc. Toutes ces choses, on va les placer à l'avance pour s'assurer qu'ils soient présents à un certain niveau dans le jeu, à une certaine place dans le niveau, et ainsi s'assurer que le joueur s'amuse.
Très bien. Et du coup, alors ma dernière question, c'est parce que effectivement, quand on a lancé le jeu, j'étais assez surprise de voir les deux niveaux de difficulté qui sont faciles et trop faciles. Alors voilà, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'était pour piquer un petit peu l'ego du joueur ? Est-ce que c'était une blague entre vous ?
C'était carrément du troll. Ça s'est un peu décidé à la dernière minute, je crois.
Totalement à la dernière minute. Je me souviens encore très très bien. C'est le directeur marketing qui est très très blague, on va dire. Max qui dit en réunion, on était vraiment dans le couloir en train de sortir de la réunion, je m'en souviens encore très bien, et qui a dit on pourrait les appeler très facile parce qu'il fallait, on allait shipper une version publique, donc il y avait le producteur qui passait par là et qui devait remplir ça dans le fichier de langue, et il dit bon, on les appelle comment, et Max dit on n'a qu'à dire trop facile et facile. On s'est tous marrés. Il y avait le writer normalement qui s'occupe de gérer, de valider tout le contenu textuel du jeu, qui était là et qui dit moi ça me va et tout. Donc, Michael redescend, l'écrit dans le fichier de config, on envoie le jeu. Et là, on commence à voir les retours. Et dans l'eau, il y en a qui ont trouvé ça drôle. Il y en a certains qui ont été vexés. Et en fait, avec le recul maintenant, aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas forcément la meilleure blague du jeu. Il y a encore aujourd'hui des gens qui mettent ça dans les reviews. Mais c'est quoi ? C'est insultant, etc. Je ne peux pas découvrir le jeu à ma manière sans me faire moquer. Donc effectivement, je pense que c'est le genre de truc que personnellement, que je ne referais pas. Mais c'était marrant.
Moi, je trouve ça très, très marrant.
Ouais, je trouve que ça prend beaucoup à contre-pied tous les jeux qui font genre niveau normal, et puis difficile, puis extra super difficile, et ainsi de suite, qui sont plutôt dans la surenchère de « Oh, t'es le meilleur, machin », alors qu'en fait, c'est complètement relatif, et donc ça se trouve, le niveau normal, il correspond à un niveau extra facile débutant. Et
le niveau facile est douloureux.
C'est notre niveau hard, du coup, forcément, il y a aussi un problème de déception, on va dire, un petit peu de la part du joueur, enfin de déception. Comment dire, il ne s'attend pas, parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui pensent que du coup, il va y avoir d'autres niveaux qui vont se débloquer derrière, donc du coup, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont pas, on va dire, qui facilitent pas l'accessibilité du jeu et la bonne compréhension de ce que va être ton expérience. Donc, c'est pas optimal.
Alors moi, je pense quand même que ça te fait bien comprendre que tu vas souffrir. dès le début.
Bah, tu peux passer à côté, tu peux ne pas
easy,
comprendre.
Tu perds la première salle, tu dis OK.
Effectivement, après, je pense qu'il y a une part des, voilà, des reviewers, des journalistes, des joueurs qui ont aimé cet aspect un peu brutal du jeu. C'est un terme qui est revenu souvent. Donc voilà, c'était loin d'être tout négatif, mais aujourd'hui, on essaye de penser à faire des jeux tout en étant toujours dans une expérience franche comme celle-ci, mais qui sont un peu plus, qui vont un peu plus communiquer aux joueurs l'expérience qu'ils souhaitent et lui donner un petit peu les outils pour comprendre ce qui va lui arriver.
Je pense que c'est bien, ça remet un peu l'ego de certains joueurs à leur place.
La team premier degré.
En mode, il faut absolument, je ne peux pas jouer en trop facile, j'ai trop d'ego pour ça, et finalement, se faire ratatiner dès le premier niveau. Moi, j'avais une petite question en ayant beaucoup joué, on va pas se mentir, ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de vie selon les étages, c'est-à-dire qu'il y a des étages où on va avoir tel type d'ennemis qui vont revenir, et j'ai l'impression au fur et à mesure des parties que ce sont un peu toujours les mêmes étages qui vont avoir les mêmes vies, les mêmes adversaires. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est généré aléatoirement? J'ai pas de chance ou...
Alors, c'est intéressant parce que ça parle justement de la partie que tu veux garder en contrôle et la partie que tu veux pas, et ce que ça laisse entre les deux de disponible. Donc par exemple, on a pris la décision que les biomes, donc c'est-à-dire un peu les types de décors qu'il y a à chaque étage, allaient être fixes. Donc ils sont toujours au même endroit, toujours les égouts, et puis ensuite le labo, etc., etc. Donc ça, pourquoi on l'a choisi? Parce qu'on s'est dit, si on fait tout aléatoire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'uniformité du chaos. Finalement, on finit par ne plus se rendre compte qu'il y a un enchaînement de biomes, etc. Et on voulait que les gens, ça soit une de leurs motivations, finalement, de réussir à aller enfin au quatrième, au sixième, au septième niveau, parce que, justement, ils n'avaient jamais vu ce biome et qu'ils avaient, le moment où ils allaient enfin découvrir un nouveau biome, ben, ils allaient être contents. Donc ça, on a décidé, voilà, c'est fixe, et on s'est dit, on fera l'aléatoire sur autre chose, mais pas sur ça. Et après, les monstres, alors, le système de bestiaire est... Entre les deux, justement, il est un peu contrôlé et un peu aléatoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque monstre, on a une table de pourcentage de chance qu'un monstre arrive dans un donjon, enfin dans un étage, par exemple, spécifique. Et c'est assez large. Donc, en fait, on peut rencontrer un monstre, généralement, c'est à peu près la moitié quand même des 12 niveaux. Donc, c'est quand même assez large. Par contre, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un peu plus de contrôle que ça. Et en l'occurrence, comme c'est un jeu où d'étage après étage, on va faire des recherches technologiques, on va affiner sa stratégie dans une direction en fonction justement des monstres qu'on rencontre, parce que c'est quand même un tower defense, entre autres. Du coup, si jamais à chaque étage, on tire au sort au hasard des créatures qui sont possibles dans ce niveau et qu'on les change finalement à chaque niveau, eh ben, le joueur ne met pas en place de stratégie et donc on perd cet aspect qu'on avait envie d'avoir dans notre jeu. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque étage, tu as environ, on va dire justement parce qu'il y a un peu d'aléatoire là-dessus aussi, environ la moitié des monstres qui viennent avec toi de l'étage d'avant. Ainsi, tu as la sensation de pouvoir construire sur le long terme.
Parce qu'effectivement, les monstres sont très punitifs selon la stratégie et le type de monstre.
C'est clairement ce qui fait que tu dois vraiment t'adapter, et c'est la base d'un jeu de stratégie normalement. Donc on essaie d'avoir ce petit aspect stratégique dans le jeu où tu as ta stratégie et ensuite il faut que tu l'adaptes à la situation.
Eh bien, ça marche. Ça fonctionne très, très bien. Un petit peu trop bien, même.
Mais du coup, en plus, là, tu parlais de biome. Ça m'a fait penser à un autre jeu, Dead Cell, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où là, typiquement, c'est aussi un jeu en génération procédurale. Et pour avoir vu un petit peu, ils ont expliqué un peu comment ils avaient fait. Eux, ils ont en fait un enchaînement de niveaux qui est toujours le même. Et dans chaque niveau, il y a des points qui sont fixes. Tu sais que si tu es dans le niveau près de la mer, tu as toujours tel endroit qui est à tel endroit, mais par contre, les monstres et les props sont très différents parce qu'ils sont vraiment catégorisés par niveau. Donc je pense que c'est une mécanique qui est assez reprise dans pas mal de jeux, même dans Isaac, mine de rien.
C'est ce que j'allais dire, dans Isaac, il y avait certains trucs qui sont déjà prédéfinis, où ils savent que certaines configurations de pièces, elles vont arriver, certains enchaînements, trucs comme ça.
Vas-y. Après, Dead Cell, j'ai l'impression que c'est aussi un objectif de speedrun, et du coup... Quand tu connais bien le jeu, tu sais, typiquement, tu sais que le deuxième trou, ça va être le trou où il y a la porte de speedrun, tu auras les super coffres, et tu peux ignorer le reste. Et le fait d'avoir des éléments fixes permet de pouvoir speedrunner un jeu qui est complètement aléatoire en théorie. Et je pense que c'est un de leurs éléments marketing, et peut-être, je sais pas, parce qu'ils aiment le speedrun, mais clairement, l'idée de dire vous pouvez jouer et essayer de finir la partie, ou vous pouvez jouer et essayer de finir la partie en 10 minutes, vous allez être récompensé par votre expérience. Je pense que c'est assez important, et c'est là où les points fixes sont aussi importants, quoi.
En fait, je pense que ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est un roguelike, en fait, que ce soit Dead Cells ou Donjon. Et en fait, l'une des promesses du roguelike, c'est de dire, vous allez recommencer la partie et ça va être reset. Vous n'allez pas avoir de progression. Alors certes, il y a des objets qu'on débloque, que ce soit dans Dead Cell ou Donjon, on va débloquer des nouveaux héros. Mais normalement, il n'y a rien qui facilite le prochain run. Parce que c'est un peu la promesse qu'on fait aux joueurs, c'est qu'à chaque fois, il va être remis dans cette place de débutant. Sauf que d'un point de vue, là je parle de compétences virtuelles, c'est-à-dire de choses qui va débloquer dans le jeu. Donc surtout, il ne faut pas que le jeu devienne plus facile à force de jouer, sinon on va tomber dans un côté grind, de devoir faire des parties pour gagner. Quelques jeux l'ont fait et justement, ils sont un peu bancals de ce côté-là. Rogue Legacy a un petit peu ce problème, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on progresse dans un Rogue, normalement ? C'est la connaissance du jeu. Et ça, c'est la compétence qu'on appelle réelle du joueur, justement. C'est ce qu'il, lui, il connaît dans son cerveau du jeu. Donc, si jamais tout est chaotique et tout est aléatoire, en fait, il ne peut rien apprendre. Et si un monstre, imaginez, vous avez un donjon, et les monstres, non seulement sont différents à chaque étage, mais aussi ont une apparence et un comportement différent à chaque partie. Donc, ça serait l'espèce de version ultime, complètement généralatoirement. Et bien, d'une partie sur l'autre, le joueur ne va rien avoir à se rattacher. Il a besoin d'avoir de la connaissance qu'il va acquérir justement par son expérience dans le jeu. Et donc forcément, c'est toujours l'équilibre entre le nombre de choses qu'on va lui laisser apprendre parce qu'elles sont toujours pareilles. Dans Dead Cells, les monstres ont une apparence et un comportement qui est toujours associé. Et c'est le cas généralement dans la plupart de ces jeux. Et de tout ce qu'on va laisser à l'aléatoire pour créer la rejouabilité.
Les joueurs sont assez bons pour optimiser. Moi, je vois sur des Diablo-like, même si la génération des niveaux est quand même vraiment aléatoire, eh ben en fait, t'arrives au bout d'un certain temps, moi j'ai passé pas mal de temps sur Diablo 2 en particulier, à connaître certains indices de patterns. Alors ça va être des probabilités, donc tu vas pouvoir savoir, ah oui, alors là il y avait cette salle-là dans telle orientation, donc statistiquement dans mon vécu de joueur qui a fait la même zone à peu près 7000 fois, je suis capable de dire que peut-être la sortie elle est plutôt par là, et c'est vrai que c'est assez marrant comme tu peux voir, on va dire, l'expérience d'un joueur, tu vois, si c'est un joueur vraiment qui en a vu d'autres, bah, il va être capable de naviguer et t'as l'impression, mais en fait, il a un hack, il a toute la map. Non, en fait, il est juste capable de savoir intuitivement comment la génération a eu lieu et c'est assez marrant. Comme,
c'est ton réseau de neurones personnel.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi.
Quand même être un sacré malade.
Ouais, mais c'est le genre de jeu, enfin, en tout cas pour les Diablo-like, où tu joues beaucoup et très souvent dans les mêmes zones, puisqu'à haut niveau, ça se passe souvent, en tout cas pour Diablo 2, tu vois, ça se passait dans un nombre de zones assez restreint, et du coup, en fait, tu deviens un expert de la zone, quoi, et genre, sans savoir comment ça a été codé, tu connais l'algorithme de génération, et tu serais capable de dire, là, ils ont patché un truc, cette configuration-là, elle n'existait pas, j'ai jamais vu ça, quoi.
Très bien, voilà, du coup, ça finit pour mes questions, à toi, Antoine.
Très bien, donc après ces questions aux invités, on va passer un peu, comme on fait d'habitude, aux questions entre nous. Donc on a préparé quelques questions pour que chacun donne un peu son avis. On va faire un petit tour de table. Donc la première question, quel jeu en génération procédurale vous a le plus impressionné ? Il y a quelqu'un qui veut commencer ?
Moi je dirais No Man's Sky quand même. La promesse était grande. Alors l'objectif en première version, on va dire, n'était peut-être pas tout à fait atteint par rapport aux attentes du public. Mais avec les patchs et le recul, c'est quand même assez impressionnant d'arriver à faire un jeu de cette qualité-là avec beaucoup de générations procédurales. Et puis, il est fun, donc c'est pas mal.
Moi, je dirais Isaac, enfin, The Binding of Isaac, parce qu'il y a énormément d'interactions. Enfin, il y a énormément d'objets, il y a énormément d'interactions entre les objets. Et j'ai l'impression que c'est là où ils ont mis tout le cœur du truc, quoi. C'est vraiment sur ces interactions-là, parce que bon, les graphismes, ils valent ce qu'ils valent, l'histoire... c'est pas trop pâte, mais le fait de se dire, effectivement, on a 150 objets et cet objet avec cet objet-là, ça va faire un truc particulier que le joueur va devoir apprendre et il va falloir qu'il apprenne toutes ces combinaisons, qu'il les comprenne, qu'il se dise, attends, celui-là avec celui-là, il y a moyen que ça fasse un truc cool, mais je suis pas sûr, est-ce que je le tente, est-ce que je le tente pas ?
Soit un truc très cool, soit un truc horrible.
Et voilà, ça. Ah mais en fait, je peux plus tirer, c'est embêtant. Mais je trouvais que c'était vraiment impressionnant de ce point de vue-là, le côté arriver à contrôler un petit peu l'expérience du joueur en ayant autant d'éléments aléatoires, quoi. Bon, même s'il contrôle rien du tout et au final ça fait des parties toutes cassées, on est bien d'accord, mais sur l'intention en tout cas il y avait vraiment beaucoup d'efforts, je trouvais, de fait là-dessus.
Moi j'aurais dit je reviens juste, je suis pas très original, No Man's Sky aussi, même si j'y ai même pas joué, mais j'ai vu tellement de vidéos et tellement de choses dites dessus, rien que pour l'achievement technique en fait.
Ouais, voilà.
Le côté dev que tu fais, waouh!
Le côté dev, ouais. Et puis quand on le voit un peu parler de techniquement comment ils ont fait, c'est juste hyper élégant. Et même si les résultats sont pas, en termes vraiment d'expérience joueur, sont pas toujours très bons apparemment, pour le côté technique, ouais, moi c'est ça que j'aurais ressenti.
Je dirais quand même que même si j'en ai dit quelques, j'ai lancé quelques pics sur le projet, moi je l'ai absolument adoré, j'ai passé des dizaines d'heures à me perdre dans l'espace, et que bien sûr on en veut toujours plus, et que oh là là, cette caisse qui est toujours placée avec exactement le même angle devant la même porte du même laboratoire partout dans le monde m'a vraiment agacé. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un jeu incroyable. Et moi, j'aurais peut-être cité Dwarf Fortress, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois dans ce podcast, sans vraiment dire à quel point ce jeu est d'une profondeur absolument incroyable en termes de génération procédurale. C'est certainement l'exemple le plus complet qui existe, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le concept, donc on va lancer une partie, en fait, un monde entier va être généré. Alors certes, il est en ASCII art, il est assez simpliste d'apparence, mais en réalité, il y a des centaines d'années qui défilent à l'écran, des changements de relief, des plaques tectoniques, bon, j'exagère un petit peu, mais il y a effectivement des rivières qui changent, etc. Des royaumes sont générés, des histoires entre les royaumes sont générées, des légendes sont générées, et puis d'un coup, boum, on s'arrête, et c'est là que commence la partie, avec toute cette histoire qui existe déjà. Et encore une fois, la génération va se relancer, puisque suivant la zone qu'on va prendre, il va y avoir toute une génération de la zone, et puis il va y avoir la génération des comportements des monstres autour de nous, et puis la génération des ressources, et puis la génération des histoires entre nos nains, puisque ces nains, on ne les contrôle pas directement, ils ont une vie, ils ont des pensées, ils évoluent, et on peut cliquer sur chaque nain et voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont comme histoire d'amour et de relations entre les autres, les uns et les autres. Enfin bref, c'est une espèce de labyrinthe de génération procédurale. Il lui a fallu des années, il travaille encore, les deux frères Adams, dessus particulièrement, j'ai oublié son nom.
Tarn.
Voilà, c'est absolument incroyable, c'est extrêmement non accessible, malheureusement. Voilà, moi, il m'a fallu plusieurs semaines de tuto YouTube pour pouvoir juste comprendre comment lancer une partie. Mais ça, voilà, derrière ce mur de complexité, il y a vraiment des trésors de génération.
J'ai une petite question, vu qu'on a deux experts autour de la table. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué, il y a une version parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions, donc vraiment le full ASCII, il y en a avec un peu de décor, etc. Vous en conseillez une ou...
Je ne pourrais pas nommer, mais il y a effectivement des modes graphiques qui sont...
je ne sais pas si ça aide. Enfin, ça peut rendre le truc plus accessible, mais de toute façon, la barrière à l'entrée... Enfin, si tu t'arrêtes à ça, si ce qui fait la différence entre tu joues ou tu ne joues pas, c'est le fait que tu aies des petites images au lieu des petits caractères, c'est probablement que ce n'est pas le jeu pour toi.
Après, je peux me planter, après, ça aide mais quand même un petit peu la visibilité parce que c'est un petit peu dur au début.
Ouais, c'est vrai.
Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on a eu quelques exemples de jeux qui se sont très fortement inspirés de Dwarf Fortress ces dernières années, qui sont sortis, qui n'ont pas la profondeur de Dwarf Fortress, mais qui rendent ce concept de jeu accessible. Il y a eu les Gnomoria, les Tone. Ensuite, il y a eu des jeux qui se sont inspirés d'un peu plus loin, mais Prison Architect, c'est quand même totalement inspiré du gameplay, ouais. Par exemple. Rimworld maintenant récemment, et donc voilà, on a des très bons exemples de jeux, parce que les derniers là sont, que je viens de citer sont vraiment particulièrement bons, et voilà, s'inspirent de l'esprit de Dwarf Fortress, mais en le rendant un peu plus accessible.
Ok, je vais quand même donner ma réponse, parce que j'ai déjà parlé de ce jeu, mais je vais reparler rapidement de Minecraft, parce que même si c'est un jeu auquel je joue plus trop maintenant, c'est un des premiers où quand je l'ai lancé avec c'est un pote qui m'en a parlé, j'ai des potes qui jouaient, je sais plus... c'était après l'école, donc ça, ouais, quand j'étais en stage ou au début du taf. Et puis, je me disais, ouais, tiens, vas-y, lance-le, tu vas voir, c'est cool. Et je l'ai lancé. Bon, j'ai pas tout compris au début parce que bon, tu sais pas trop, il n'y a pas vraiment d'aide. En tout cas, les premières versions, il n'y avait pas grand-chose qui expliquait comment ça marchait. Mais c'est un jeu que dès que j'ai commencé à me balader dedans, ça m'a fait un peu comme quand je jouais au Lego. Il n'y avait pas vraiment de limite, tout était possible. Tu relançais, tu avais un nouveau truc. J'ai fait, tu relançais. 15 fois ta partie pour avoir un monde où t'avais une jolie falaise au début parce que tu trouvais ça sympa et t'allais faire ta maison là. Et c'est un des premiers jeux, je trouve, où quand t'avais vraiment une impression de liberté probablement moins forte que dans des jeux comme No Man's Sky ou des trucs un peu plus récents, mais qui est pour moi le premier où t'avais un truc comme ça. Quoi.
Je pense que les premiers que Dwarf Fortress. Les premiers pas sur Minecraft sont marquants pour beaucoup de monde. Enfin, moi, je me souviens le premier soir où, avec un pote, on se dit « Ah, on a entendu parler de ça. » Puis tu sais, je commence à l'installer, on commence à y jouer à deux sur mon PC. Puis « Oh, ben, je vais rentrer chez moi et vas-y, on va créer un serveur. » Et puis tu sais, à 6h du mat, on est encore dessus et en train de faire notre « Oh, on va faire un temple avec des coulées de lave et machin. » Et tu vois, et c'est vrai que c'est assez marquant le côté « Waouh, on peut faire ce qu'on veut. »
Très bien, deuxième question. Selon vous, quel style de jeu mériterait d'être abordé de manière procédurale? Donc, probablement quelque chose qui n'a jamais été fait. On aime bien faire ça dans le podcast, mélanger des trucs ou proposer des choses qui n'ont jamais été faites.
Bah, comme ça, on va taper dans des mines d'or à un moment.
Alors, moi, je dirais Hollow Knight. Comme ça, je pourrais y jouer plus. à l'infini.
Moi, je taperais dans le RTS. Effectivement, vu qu'il y a un aspect compétitif, les maps sont assez fixes, mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce côté, un peu comme dans le 4X d'ailleurs, le côté où les ressources sont un peu disposées aléatoirement, les rencontres, etc. J'imaginerais très bien un Warcraft 4 en procédural où, effectivement, pas forcément la campagne en elle-même, mais des parties puissent être un petit peu randomisées.
Pas un RTS, mais c'est vrai que quand on voit les Heroes of Might and Magic, où là, le côté niveau aléatoire, découverte et tout, c'est un vrai pan du gameplay de faire l'exploration, et tu peux pas l'avoir en statique. Et c'est vrai qu'au final, sur des RTS, ça serait intéressant, je pense.
C'est vrai qu'en fait, le mur est fin, quoi. Entre
le côté, au début, tu pars, t'as pas la map, tu sais pas où sont les autres, et tu sais même pas où aller, par où passer, ainsi de suite, et t'es obligé de découvrir ça petit à petit.
Et là encore, je pense pas que ce serait incompatible avec l'e-sport, parce que justement, la connaissance du jeu apporterait énormément.
Ouais.
De se dire,
oui, c'est vrai, c'est comme le draft à Magic.
Le pattern me dit quelque chose, je pense que par là, c'est un bon plan d'y aller, quoi.
Oui.
Dans le même genre, on pourrait avoir aussi des MOBA, comme ça, parce que typiquement, sur LoL, bon, c'est toujours la même map. Est-ce que ça pourrait être pas intéressant de se dire, la map va changer? Et donc, du coup, toute une partie en fait, du jeu, ce serait pour les équipes de savoir comment je gère une map que je connais pas, parce que tu pourrais pas avoir des rôles top, mid, qui soient aussi déterminés que là, maintenant, ce qu'on a.
Bizarrement, ils ont essayé dans plusieurs MOBA de changer les maps, mais les gens reviennent toujours à la même, c'est fou. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de suroptimiser une map qui a l'air de plaire énormément aux joueurs. Moi, personnellement, je n'en suis pas un, donc j'ai un petit peu de mal à me mettre dans la peau de ces joueurs. Moi, ça me plairait beaucoup plus si les maps étaient générées aléatoirement. Mais moi, ma réponse, ce serait plutôt... alors, tout m'intéresse avec la génération procédurale, clairement. Mais ce serait du côté, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de la génération d'histoire. J'ai la conviction qu'on peut imaginer un jeu d'enquête où toute la situation, les mobiles, etc. de tout le monde serait généré aléatoirement. Par exemple, c'est quelque chose qui m'intrigue depuis pas mal d'années, auquel je pense. Et je pense qu'il y a un potentiel fort, justement... à essayer d'écrire un vrai moteur qui est capable de construire une histoire captivante pour le joueur aléatoirement.
Ouais. Bah, du coup, tu parlais de Nightcall, peut-être qu'ils vont nous promettre.
Nightcall, c'est un peu la promesse, ouais. Donc,
bon, il faut se méfier des promesses, on l'a bien vu avec No Man's Sky, mais peut-être que.
Non, mais dans le jeu narratif, je sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça, en fait, mais moi, c'est un des trucs qui me rebute un peu dans les jeux narratifs, c'est le côté je joue une fois et j'ai pas de relecture, quoi. Et là, du coup, la promesse, c'est l'inverse. C'est que chaque playthrough est complètement unique.
Après, il y a le côté de la narration, ça peut vraiment se crafter. Enfin, c'est un peu un travail d'orfèvre sur tu vois, les voix, les intonations, enfin, sur tous les personnages et toutes les interactions. Et c'est vrai que tu vois, un Her Story en procédural, tu dis combien de fois tu vas devoir jouer avant d'avoir l'intrigue et encore Her Story, le gameplay lui-même est en soi un petit peu, enfin une part du jeu, une part de l'originalité, mais même sur juste une histoire classique, tu vois, tu vas te retrouver avec combien de fois, bon bah une histoire classique, ok il y a un traître, ok il y a machin, ok il y a bidule, et, tu vois.
Je suis ton père.
Ouais voilà c'est ça, et des retournements machin.
Toute une question de quantité, hein, de complexité de l'algorithme. Aujourd'hui, c'est l'avantage par rapport à fabriquer un jeu vidéo où c'est encore quelque chose qui est encore très flou, on essaie d'avoir des théories, on essaie de comprendre comment ça marche. Par contre, écrire une histoire, on commence à avoir vraiment pas mal de
plusieurs
décennies, de millénaires, on peut même le dire, d'exemples d'histoire et de comment écrire une bonne histoire. Aristote écrivait déjà sur la question il y a longtemps. Et donc forcément, des schémas, on sait qu'aujourd'hui, derrière tous les grands films de notre enfance, je pense par exemple à tous les Spielberg, etc., il y a des schémas totalement, voilà, on appelle ça la courbe d'engagement par exemple, etc. Et donc on saurait les traduire, je pense, assez bien, en tout cas pour ce qui est de tout ce qui va être plot et tout ce qui va être surprise et intensité du récit, je pense qu'on peut le traduire. Après, bien entendu, on a encore beaucoup de travail pour que ce soit du niveau d'une équipe d'écrivains, ça c'est sûr.
Après, tu pourrais dire, vu là maintenant, on a parlé un petit peu d'IA tout à l'heure, mais rien qu'avec les réseaux de neurones, on pourrait dire, il suffit de lui donner toute la littérature qu'on a à un réseau de neurones, et comme ça, il pourra nous sortir des histoires qui finalement seront aussi...
Moi, je pense surtout que ça serait capable de faire de l'histoire qui va te captiver toi, quoi. Et ça, j'y crois plus. C'est-à-dire que faire une IA qui soit capable de te dire, je sais pas comment, c'est là le problème, mais d'avoir du feedback petit à petit et puis d'être capable de dire ok, toi ce soir t'as envie d'une histoire qui va faire pile juste peur avec ça, avec ça, avec ça, et arriver à te faire un truc où tu sois engagé à fond complètement, et ça peut-être effectivement, enfin, ça viendra parce que ça sera plus facile que de faire une histoire générale qui plaise à tout le monde comme peut le faire un écrivain, même si son histoire est mieux dans l'absolu, elle est peut-être moins bien pour ton état d'esprit un soir donné quand tu lances le jeu ou quand tu lis l'histoire.
Alors, mine de rien, c'est pas du tout généré aléatoirement, mais je pensais à Détroit, où le fait d'avoir autant de choix, ça te pousse un petit peu à jouer comme toi tu as envie, et du coup tu te retrouves avec une histoire qui finalement est assez différente, parce qu'à tel moment, t'as ressenti de l'empathie pour un personnage alors que quelqu'un d'autre n'aurait pas ressenti la même empathie, donc du coup vous n'allez pas réagir pareil. Bon alors, c'est pas du tout généré aléatoirement, même s'ils ont beaucoup beaucoup de fins. Enfin, c'est pas infini non plus, mais peut-être que ça pourrait être un peu dans ce sens-là où on va te proposer plein de choix et puis petit à petit l'histoire va se construire en fonction des choix que t'as fait, quoi.
Ouais, c'est plus intimiste effectivement. C'est un jeu qui joue pas forcément à deux, parce que tu prends un choix et à côté t'entends ah, j'aurais pas fait ça.
Après, il y a une IA aussi qui a, j'ai vu un court métrage dont le scénario avait été écrit par une IA. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai pas le nom en tête, on le retrouvera peut-être pour mettre le lien. Mais il y a une vidéo sur YouTube, voilà, ils ont dit, voilà, on a donné plein de scénarios justement en deep learning à une IA, elle a sorti le scénario et voilà, on a réalisé le film, tada. Bon, c'est de la merde évidemment, mais ça donne de l'espoir.
Désolé, c'est pas notre faute.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'était que de la SF, c'est ça, hein. Il y avait de la SF à balle.
Très bien. Question suivante, donc... quel jeu vous a fait reconsidérer la génération procédurale? Donc genre mélange de gameplay par exemple, ou autre.
Alors moi je sais que justement en pensant à cette question, j'ai beaucoup pensé à Slay the Spire, parce que je trouvais ça très original, ce côté deck building en roguelike, et du coup tu joues que avec des cartes, alors que j'avais plus l'habitude des roguelikes comme Rogue Legacy ou Binding of Isaac, et du coup c'était intéressant ce côté un peu tour par tour, ouais, deck building, je sais pas, j'avais trouvé ça intéressant pour...
Oui, c'est un mélange de Dominion, Ascension, tout ça, enfin, des jeux de plateau qui ont fait leur preuve en termes de deck building. Et le roguelike a fait ses preuves depuis aussi longtemps en termes de jeux vidéo. C'est vrai que c'est assez malin. Moi, j'avais un peu la même réponse sur ce côté. Ces deux gameplays qui, à la base, n'ont pas vraiment grand-chose à voir, à part l'aléatoire quoi, et l'effet de surprise, le fait de s'adapter effectivement à ce que le jeu nous donne, mais qui finalement fonctionnent très bien ensemble. Quoi.
Moi, je pensais à Keep Talking and Nobody Explodes, qui est effectivement un jeu donc, de coop asymétrique où il faut désamorcer une bombe. Et le côté, du coup, génération procédurale, là aussi, il y a un petit côté technique qui, moi, me plaît bien dans la façon dont c'est fait, mais assez intéressant à voir et à jouer en tant que joueur, c'est vraiment marrant, parce que les bombes, bah, c'est jamais deux fois la même, et la façon de la résoudre, c'est jamais deux fois la même, et du coup, le jeu est vraiment, voilà, fait un espèce de mélange des genres un peu bizarre où on ne serait pas attendu à ça, mais en fait, c'est de la génération procédurale.
Et après, moi, je trouve ça super intéressant de voir que, donc, on parle beaucoup de roguelike, parce que ça a été très lié historiquement à la génération procédurale. Mais sur ces dernières années, les jeux commencent un peu à prendre ce qui est intéressant du roguelike autour de cette connexion qui se crée avec ta partie parce que la permadeath, parce que c'est difficile, etc. Et qui vont le prendre, justement, le mélanger avec d'autres genres. Et déjà, FTL, c'était très éloigné du genre, par exemple, du roguelike. Je sais pas, par exemple, il y a Darkest Dungeon qui était super parce que il a pris un certain nombre d'éléments, mais il a aussi voilà fait ce hub central qui n'est pas dans les règles de l'art du tout du roguelike et qui m'a beaucoup plu. Et dernièrement, moi j'ai alors c'est, on s'éloigne vraiment de plus en plus du roguelike, on appelle ça maintenant les roguelites. Et donc il y a par exemple Pyre qui est de Super Giant Game qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, où il y a l'idée globale de je suis toujours en train d'avancer dans une partie qui n'est pas toujours enfin qui est toujours différente, mais par contre on accepte que le joueur perde et au lieu de le refaire commencer à zéro, on le fait toujours avancer en prenant en compte ses échecs et en le prenant en compte dans le scénario. Et là je trouve vraiment qu'on commence à toucher du doigt ce qui est plus cool dans le roguelike et dans la génération.
Et pour ma part, je cherchais en fait la question précédente, les types de jeux qui n'avaient pas été encore touchés par la génération aléatoire. Et il y a des jeux que moi j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était les shoot'em up. Et très souvent, les shoot'em up, le principe c'était il fallait connaître les niveaux par cœur, savoir où la vie était cachée à tel moment du niveau dans tel coin de l'écran, etc. Et il y a des petits bijoux genre Stereden ou Drifting Lands qui ont complètement revu le genre. En mettant de la génération aléatoire des niveaux, des patterns d'ennemis, etc. Et il y a beaucoup de vieux briscards qui ont tout de suite plongé dessus en disant mais c'est pas ça un shmup c'est un truc que tu dois connaître par cœur, tu dois speedrunner le truc et tout. Mais en fait, ça relance. Enfin, c'est carrément un type de jeu différent, quoi. Et c'est pas du tout la même façon de choper du skill, d'apprendre le jeu. Et c'est vraiment très très rafraîchissant, je trouve. Même si le genre est un peu plus trop publicité, mais voilà. Ouais, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué récemment.
Nouvelle question. Si vous deviez, donc c'est une question qu'on a assez classique dans notre podcast maintenant. Si vous deviez recommander un seul jeu qui utilise de la génération procédurale, lequel serait-ce? Et tu peux pas dire Hollow Knight, Jade.
On peut dire The John of the Endless.
Complètement.
Non, alors moi je dirais peut-être Binding of Isaac, parce que alors je me rappelle vraiment de ma première partie où j'ai vraiment pas réussi, je comprenais pas les contrôles, ça me paraissait pas du tout naturel. Et en fait, à force d'y jouer, tu te rends compte de tout l'apprentissage en fait que tu as. Après, tu sais exactement, tu connais tous les patterns de tous les persos, tu sais exactement où sont les salles secrètes, tu sais tous les combos qu'il faut absolument avoir. Et c'est ultra satisfaisant. Et en fait, bon, sauf quand tu joues des... Enfin, sauf quand je joue des persos qui sont très durs et que du coup, ça m'amuse pas. Mais quand je joue juste des persos que je connais par cœur, bah, tu as vraiment ce côté, c'est un peu une routine. Et du coup, c'est toujours... Même si le jeu, je dois avoir plus de 200 heures dessus, bah à chaque fois, c'est une redécouverte de ce jeu. Et bah, je trouve ça assez impressionnant, alors que pourtant, les graphismes sont moyens. Enfin, ils ne sont pas non plus incroyables. L'histoire, bah, c'est quand même... voilà, on ne va pas s'épiloguer. Mais du coup, ils ont quand même réussi à faire un truc qui est super impressionnant, je trouve. Donc voilà, je conseillerais celui-là.
Moi, je dirais Isaac aussi, juste pour le potentiel de what the fuck que tu peux avoir dans n'importe quel run qui fait que si tu n'en as qu'un, bah, tant pis, celui-là, tu pourras toujours... trouver un truc vraiment drôle, même si tu finis pas la partie, même si voilà, elle est dure ou quoi que ce soit, tu pourras trouver des trucs hilarants, tellement c'était peut-être pas prévu du tout dans le jeu, ou voilà, et tu vas prendre du plaisir vraiment là-dessus, quoi.
Moi je dirais Fortnite et bim, qu'est-ce que vous allez faire? Au cas où vous ne jouiez pas à Fortnite comme 150 millions de personnes, non, en fait c'est parce que le mode original de Fortnite, donc le Save the World, celui pas Battle Royale, il y avait un algorithme de génération procédurale vraiment très très cool qui générait des petites villes, des petites forêts et tout, vraiment très sympa esthétiquement et plein de richesses et plein d'envie de découverte. Mais bon, c'était plus pour la blague, mais quand même il y a un super algorithme qu'ils n'utilisent pas du tout du coup pour Battle Royale. Je vais quand même conseiller Pyre, je l'ai cité juste avant, mais je trouve qu'il est un peu passé inaperçu à la sortie alors que c'est un jeu qui est juste absolument magnifique. La génération procédurale est légère, mais par contre il y a une superbe histoire, chaque personnage est ultra caractérisé, tout est aux petits oignons et le gameplay est ultra original. C'est une espèce de jeu de basket, mais moi qui ne suis pas trop jeu de sport, j'ai absolument accroché parce que c'est ultra dynamique, élégant, et voilà, histoire, DA, c'est vraiment un très très bon jeu.
Moi de mon côté, bon, je vais pas reparler de Minecraft, je vais parler peut-être de jeux, donc un où il y a un tout petit peu de génération procédurale, qui est mon premier 4X, qui est Master of Orion 2, Battle at Antares, qui est un jeu très très vieux et très très moche, mais très très cool. Et sinon, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, je conseillerais Rogue Legacy, même s'il a un côté un peu énervant à la longue, parce qu'effectivement, faut faire pas mal de parties pour améliorer les compétences des héros et pour pouvoir aller plus loin. Je l'ai trouvé vraiment très cool, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, il y a une super musique, il y a une DA qui est plutôt cool, le gameplay est assez facile à prendre en main au début, même s'il est assez, assez punitif, et voilà. Donc, comme on n'en a pas trop parlé, bah, je le conseille.
Moi je pense que je conseillerais Path of Exile, c'est un peu mon péché mignon, parce que c'est vraiment un pachinko, un bandit manchot, où t'as ton truc. Enfin, c'est du aléatoire, c'est tout smooth, quand on le connaît bien, enfin, moi c'est un peu mes pantoufles, quoi, tu vois, c'est le jeu, tu réfléchis pas trop et tout, et pourtant il y a quand même pas mal de profondeur, on va dire, dans les mécaniques, et surtout pour un jeu comme ça, basé sur le hasard vraiment, où tu t'attends que le loot arrive, ainsi de suite, le modèle économique est bon, enfin est honnête, on va dire, et assez éthique, je trouve. Enfin, il est clair et il n'y a pas d'aléatoire dans le modèle économique. Et rien que ça, enfin, du coup, moi je pense que je ne jouerais pas ce genre de jeu s'il y avait un modèle économique un peu prédateur. Et là, ce n'est pas le cas et du coup, je le trouve confortable. Donc, pour les gens pour qui c'est cool de rentrer et de faire leur petit farm et d'être content quand ils lootent un truc, alors que bon, c'est comme être content si tu tires un 3 sur un dé. Enfin, je veux dire, ça ne dépend pas vraiment de toi. Mais bon, même en le sachant, moi j'aime bien.
Et moi j'ai du mal à trouver, mais je dirais peut-être Bad North, sur lequel je joue en ce moment, qui est une sorte de mini RTS, enfin un RTS minimaliste, où la génération est pas forcément le cœur du jeu, mais je veux dire, enfin voilà, je sais pas, c'est ce sur lequel je.
C'est le jeu avec les Vikings.
Ouais.
Ah oui, je vois.
Tu as protégé une île.
Ah oui, c'est le truc des îles sorti récemment, ça. Non
c'est très récent. Ouais, sur fait. Discord.
Ah, j'ai quand même envie de reparler vite fait de Dead Cells parce que c'est français, monsieur. Non, non, parce que c'est vraiment un exemple de extrêmement bonne utilisation de génération procédurale avec tout ce qu'il faut de contrôle, tout ce qu'il faut d'apprentissage et tout ce qu'il faut de variété. Donc vraiment, bravo à l'équipe de Motion Twin, c'est vraiment incroyable.
Encore une fois, Motion Twin, un épisode sur deux, on vous cite. N'hésitez pas si vous voulez venir.
On trouvera un thème, on trouvera...
Et du coup, ouais, moi, vu qu'on a rajouté un petit peu, je vais aussi remettre FTL pour ceux qui l'ont pas fait. Jouer à FTL, c'est trop cool et la musique, elle est trop bien. Et on peut juste lancer le jeu et rester sur le menu. C'est trop cool.
Ben Prunty, si tu veux venir parler de musique dans le jeu vidéo. Très bien, donc ça a conclu un petit peu cette séance de questions-réponses. Si on veut aller un peu plus loin sur le sujet de la génération procédurale, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Alors moi déjà, ben, y a la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, donc, dont on a donné les références. Qui parle de Dungeon of the Endless.
Dans la description.
Dans la description, voilà. Qui est très intéressant. Sinon, il y a un livre qui est vraiment, vraiment bien, qui est en anglais par contre, qui s'appelle Procedural Generation in Game Design par Tanya X. Short et Tarn Adams, qui est donc assez technique, puisque c'est destiné à des game designers ou à des programmeurs, on va dire, et qui aborde donc plein de façons différentes, plein de cadres différents dans lesquels faire de la génération procédurale, et qui est vraiment bien documenté et très intéressant.
Moi, je rajouterais que, justement, en cherchant un petit peu des infos sur la génération procédurale, on est tombé, en fait, sur un article qui expliquait un petit peu comment les terrains dans Spelunky étaient créés, et il montre, en fait, il laisse en libre accès, en fait, on va dire, une version de leur générateur qui est super intéressante, au moins pour comprendre comment ça marche, de d'abord générer un chemin possible, ensuite générer le donjon autour, et ensuite les salles, et ensuite, enfin, on va pas revenir, on en a déjà beaucoup parlé, mais au moins leur truc est très visuel, et il permet vraiment de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est, où est l'aléatoire, qu'est-ce qui est aléatoire, et qu'est-ce qui est décidé par les game designers. Du coup, voilà, c'est un très bon exemple, je pense, qui mérite... d'être un peu plus étudié. Et alors un truc qui est un petit peu différent, qui n'est pas forcément dans le domaine du jeu vidéo, mais que je trouvais était intéressant de garder en mémoire, c'était tout ce qui était la démo scène. Donc en fait, le but, c'est de créer une vidéo avec du son. Mais alors on pourrait dire, ok, waouh, c'est assez vaste. Non, en fait, le truc important, c'est la restriction de taille mémoire. Et donc le but, c'est avec, je sais pas, 60 kilooctets, de réussir à générer une vidéo qui soit complète, en fait. Et c'est vraiment très très bluffant parce que.
On parle d'une vidéo HD avec du son qui tient en 64 kilos. Pour que ce soit bien clair.
C'est ça, en fait, c'est dur de se rendre compte à quel point c'est fort. Et je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos sur internet parce que c'est bluffant.
Alors ça tombe bien parce que j'allais dire presque la même chose. Mais t'as dit, ouais, la démo scène, c'est pas tout à fait le jeu vidéo. Mais il se trouve qu'il y a une catégorie qui est justement faire un jeu vidéo en pas beaucoup. Et dont il y en a un que j'ai trouvé, enfin que j'ai vu sur le net qui est assez impressionnant. C'est un FPS Quake Light. Qui s'appelle Point Krieger, K-K-R-I-E-G-E-R, qui est une démo qui a été faite par une boîte qui s'appelle Point The Product, avec 2K aussi. Et donc c'est un FPS en 3D qui a été lancé en 2004 et qui fait 96 kilooctets. Voilà, donc il y a tout dedans, la 3D, le son, la musique, les textures, le jeu, etc.
Comparer ça à
un
FPS
par exemple, voilà, qui annonce 100 gigas. Ouais. Et du coup, il n'y a vraiment rien de...
De manière générale, la démo scène, ne serait-ce que pour un côté historique. Maintenant, c'est peut-être moins le cas, mais les vieux briscards du jeu vidéo, il y en a beaucoup qui viennent de ce milieu-là, en programmation en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs intéressants qui ont été exportés de la démo scène vers le jeu vidéo.
Et dans ce même genre-là, il y a le moteur Picto 8, où pas mal de mecs se déchirent à faire de la 3D à partir de rien du tout. Quoi. On a juste accès aux pixels sur l'image et il faut tout refaire. Quoi. Et c'est pareil, il y a une limite de taille, je crois, au niveau des programmes, au niveau des assets utilisés. C'est assez bluffant ce que les mecs arrivent à faire.
Oui, je crois que Celeste était un jeu Pico 8 à la base, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont après réadapté et réintégré dans leur jeu sous forme de jeu Pico 8. Enfin, assez méta.
Et alors c'est un petit peu plus différent à chaque fois, mais en fait tout cette notion un peu d'aléatoire et de génération, tout ça, ça m'a beaucoup fait penser, on en a parlé déjà un petit peu, mais au loot box et à tout ce qu'on appelle les persuasive technologies, ou enfin en fait les applications qui se veulent persuasives. c'est-à-dire comment on gère un petit peu l'aléatoire pour rendre votre application, pour essayer de faire en sorte que votre client ou que voilà, ils viennent de plus en plus souvent. Donc ça pose énormément de questions d'éthique, mais je trouve que c'est intéressant même d'un point de vue sociologique et même d'intelligence humaine, de dire comment nous, en tant qu'humains, on réagit face à l'aléatoire. Par exemple, quelque chose qui est complètement aléatoire, on n'aime pas vraiment ça. Par contre, si on sait qu'après chaque bonne action, on peut avoir une récompense, alors là, on va vraiment apprécier ça. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur l'aléatoire et qui peuvent être complètement attractifs ou répulsifs. Et dans la vie générale, c'est intéressant à connaître. C'est ce qui explique, par exemple, l'attrait des casinos, par exemple, ou ce genre de trucs. Donc, c'est pas forcément relié aux jeux vidéo, mais avoir des notions là-dessus, ça peut rendre votre jeu meilleur, des fois trop addictif, mais bon, voilà. Après
vous... Et puis même, ça peut éviter, effectivement, de se... Entre guillemets, c'est difficile de prendre du recul, mais c'est vrai que quand on voit les mécaniques, quand on sait comment elles fonctionnent, on se rend compte de quand on est en train d'y être soumis, quoi. Et typiquement... Bon, ça n'empêche pas forcément d'y jouer, hein. Moi, je joue à Path of Exile, et je sais très bien comment ça fonctionne, et c'est exactement ce type de ressort. Mais au moins, je sais l'encadrer, je sais le faire dans un cadre où je ne vais pas devoir dépenser des sous pour le faire, et ainsi de suite, et c'est en fait c'est assez important. Je pense que c'est un problème de santé publique qui va se poser dans les décennies à venir, on va dire, parce que c'est vrai concernant les jeux, mais c'est aussi vrai concernant les réseaux sociaux, et beaucoup d'applis comme ça, qui génèrent du contenu très très addictif, et là-dessus...
C'est reconnu par l'OMS désormais.
Je pense qu'il y a du progrès à faire en tant que société, mais bon.
Très bien.
Moi, j'ai une dernière, un dernier truc pour aller plus loin, qui est encore pas que en jeu vidéo, mais c'est un truc qui s'appelle la Proc Jam. C'est un peu comme une game jam, sauf que c'est pas forcément que pour le JV, c'est-à-dire que vous pouvez faire. Le principe, c'est make something that makes something. Donc voilà, vous faites un truc qui fait quelque chose. Ça peut créer un jeu, ça peut créer une vidéo, ça peut créer une musique, etc. Comme vous avez envie. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un truc qui fait de la génération. Et contrairement aux game jam un peu plus connus, c'est plutôt genre pas sur un week-end, mais un peu quand vous voulez, avec juste des dates de soumission. Si vous êtes en retard, vous nous le dites, puis vous nous l'envoyez après. C'est un peu plus à la cool.
C'est chez mamie, quoi.
C'est ça. Et voilà, ça a l'air assez sympa.
Très bien. On va conclure avec votre promo, en fait. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui va sortir? À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois?
Je peux peut-être parler de mon projet perso. Donc, ça fait 2 ans que j'ai quitté Amplitude pour bosser dessus. Et au total, si on compte le temps perso, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dessus. Donc, ça s'appelle Gladiabots. C'est un jeu de stratégie dans lequel s'affrontent des équipes de robots. À la conquête de ressources, un peu à la StarCraft, mais en version plus minimaliste. Le twist, c'est que vous ne contrôlez pas directement les unités, comme dans la plupart des SR, mais vous programmez leur comportement à l'avance. Et donc, c'est un jeu de pseudo-programmation d'IA. Et voilà, il y a une grosse partie solo, une campagne de 120 missions, mais le gros du jeu, c'est le multijoueur. Et c'est très rewardant de faire affronter ses propres IA contre celles d'autres joueurs, essayer de progresser dans les classements. Et voilà. Et c'est en early access actuellement sur Steam. Et puis voilà.
On fera peut-être un épisode sur les IA plus tard, mais du coup, ça peut être déjà une bonne façon de vous initier au concept de base, de comprendre un peu comment ça fonctionne et d'avoir un médium sur lequel travailler sans avoir à tout reprogrammer soi-même.
Alors moi, du coup, pour l'instant, j'ai surtout des projets avec Amplitude ou des projets qui sont loin d'être terminés. Donc, je ne peux pas trop en parler. Par contre, je vous propose de vous laisser avec une question verte. Est-ce que l'aléatoire existe vraiment? Et spoiler, non.
C'est moins ouvert d'un coup.
Très bien. Un dernier mot autour de la table?
Ouais, parce que souvent, en fait, on dit aussi qui on suit sur Twitter ou qui on va voir sur YouTube. Moi, je vais vous parler d'un mec que je suis depuis plusieurs années sur Twitter, qui est @gfx47, ou Sébastien Dubois, ici présent. Et n'hésitez pas à le suivre, parce que c'est cool. Il dit plein de trucs sur Unity et plein de trucs sur son jeu, et c'est plutôt intéressant, généralement.
Merci.
Moi, je vous conseillerais Inconvergent, mais qui fait de la génération procédurale d'images, et qui fait des choses très très chouettes, avec un vrai robot qui a un vrai stylo et qui écrit vraiment sur des feuilles, et qui génère des glyphes, des images, des choses complètement absurdes. C'est très intéressant. C'est pas du jeu vidéo directement, mais c'est très sympa à voir quand on aime la génération procédurale.
Et je pense que dans les liens, dans la description, on va pouvoir rajouter pas mal de vidéos en fait, qu'on a regardées pour pouvoir faire ce podcast qui étaient très très bien. Je pense à celle de Post Process ou Extra Credit qui étaient très très claires. En fait.
De toute façon, à chaque épisode qu'on fait, vous pouvez aller voir la vidéo de Post Process sur le sujet.
Ou d'Extra Credit.
Effectivement, ça marche dans tous les épisodes, clairement. Avant de se quitter, une petite promo pour un autre podcast Radio Kawa, Super Rétro Mega X.
Amoureux de jolies vieilles choses, passionné de pixels et de la 3D mal dégrossie, JB et ses sbires avisés vous accueillent chez Super Rétro Mega X, la caverne au trésor d'un passé riche à l'histoire incroyable. Une fois par mois, les archéologues de Radio Kawa débattent sur les fondations du jeu vidéo, accompagnés de temps à autre par des invités émérites.
Et j'en profite au passage pour vous dire que vous pouvez devenir Patreon de Radio Kawa. Il est tout à fait possible que dans un avenir prochain, l'épisode 0 de ce podcast, donc Game Makers, consacré au moteur de jeux vidéo qui a été enregistré et jamais diffusé, puisse se retrouver par hasard dans ce que vous pourrez écouter. Donc n'hésitez pas à devenir Patreon, c'est ce qui permet de faire vivre aussi l'association. On va remercier maintenant, du coup, déjà Radio Kawa, hein, qui maintenant, ça y est,
on peut le dire.
C'est officiel, nous sommes chez Radio Kawa, donc on les remercie pour toute la publication, tout leur accueil déjà, et pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nous aider à mettre en valeur le podcast. On va remercier Nadeo pour les locaux, comme tous les mois, et qui nous permettent d'enregistrer chez eux. Et bien sûr, Sébastien et Arthur, merci d'être venus et d'avoir apporté vos éclairages sur ce sujet passionnant qu'est la génération procédurale.
Un plaisir.
Merci de nous avoir accueillis.
Et ainsi s'achève ce troisième épisode de The Game Makers. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos suggestions de thèmes pour les prochains épisodes sur Twitter @GameMakersCast. Et on se retrouve très vite.
Salut.